Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On va parler du combat titanesque entre Microsoft et Sony au Brésil qui nous révèle tout plein d'infos. On parle aussi de Embracer Group qui rachète la moitié de la Terre pendant qu'on dort. Et tout le reste de l'actualité, c'est tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 256. 256. Si on avait continué à monter la puissance des processeurs et des consoles, on en serait peut-être aux consoles 256 bits aujourd'hui. C'est l'épisode 256, on aurait peut-être dû faire quelque chose de spécial. Mais vous savez quoi? On a quelque chose de spécial, puisque c'est le premier épisode où Hélène Ripley, non, Julie Le Baron, et là, officiellement, en tant que...
On peut utiliser les deux.
Animatrice. On peut utiliser les deux. Tu sais, c'est marrant. Bonjour Julie, comment ça va?
Bonjour, ça va très bien et toi?
Je suis en grande forme. Même si les enfants sont malades, on fait l'émission en live. On est là, prêt à parler de plein de trucs super cool. Mais surtout du fait que, du coup, tu deviens régulière de l'émission. Et j'avais fait un petit teasing, un petit quiz l'épisode précédent avec les auditeurs. Et je disais, oh, est-ce que vous pensez pouvoir deviner qui sera la personne qui va rejoindre l'équipe régulière? Et en fait, sur Discord, en tout cas, tout le monde disait, bah, c'est Hélène Ripley. Mais enfin,
J'ai vu passer quelques messages sur Twitter aussi de gens qui disaient, oui, ce serait pas elle par hasard.
Bon, donc mon petit genre teasing mystérieux n'a pas du tout marché. Mais les gens se doutaient que, en fait, c'est parce que j'ai décrit quelqu'un d'une immense qualité, d'une sympathie incomparable, d'une compétence invraisemblable. Et donc, forcément, c'était toi. Donc bienvenue.
Ça, c'était super sympa, merci beaucoup.
Et les auditeurs ont aussi eu droit à cet épisode spécial la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous recommande d'aller y jeter un coup d'oreille. C'est un épisode où on a parlé du parcours de Julie et de la manière dont fonctionne un petit peu la presse jeux vidéo aujourd'hui, la presse spécialisée. Donc c'est l'épisode précédent dans votre flux. Je pense que ça pourrait vous intéresser si vous ne l'avez pas encore écouté. Un autre truc à faire avant de se lancer, c'est de dire merci aux Patriotes qui sont devenus Patriotes depuis la dernière fois. Il y a Devil Nexus qui est revenu, lui. Merci à lui d'être revenu quand il a pu se le permettre, parce que bien sûr, on ne veut pas que les gens qui ne peuvent pas se le permettre soient Patriotes, évidemment. Devil avait quitté la famille, mais il est revenu, donc un grand, grand merci à lui. Will 9129 et Pascal sont donc les trois Patriotes qui ont rejoint la grande famille. Et le producteur de cet épisode, c'est le meilleur Lancelot du monde. Il y a plusieurs Lancelots dans le monde. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Mais le meilleur Lancelot, c'est Lancelot d'Avisard. Il y en a un qui m'en voudra peut-être de dire ça. Mais bon, il me soutient, Lancelot d'Avisard. Donc, merci à lui d'être le producteur de cet épisode. Et puis, écoute, je crois qu'on peut se lancer dans les infos de la semaine. Parce qu'il y a du lourd. Super. Il y a du lourd,
effectivement. Ouais.
La première...
Surtout ce coup d'Embracer en pleine nuit. Ça, c'est vraiment pas très sport de faire ce genre de coup la veille de l'émission.
On va le laisser... Oui, je me suis réveillé, je me suis dit, bon, bah, faut changer le programme de l'émission. Mais donc, il y a deux grosses infos à retenir aujourd'hui. Il y a, d'une part, Microsoft contre Sony au Brésil, et vous allez voir que c'est intéressant. Et puis, cette histoire d'Embracer, donc, info à retenir tout de suite. Microsoft et Sony au Brésil, c'est quoi cette histoire? C'est évidemment le rachat de Activision Blizzard qui donne lieu à des examens d'autorité, de la concurrence partout dans le monde. Et au Brésil, il se trouve que Sony a contesté les choses et donc a donné, je n'ai pas regardé le détail du détail de l'affaire, mais ce qu'il en ressort, c'est que, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé à ce point-là, mais ce qu'il en ressort, c'est que l'autorité de la concurrence a investigué un petit peu plus avant que dans d'autres pays et que donc elle a demandé des commentaires aux concurrents, aux autres membres de l'industrie. Et Sony a dit, oulala, non mais attendez, c'est quand même hyper dangereux. Si Microsoft se saisit du développeur du plus gros jeu du monde. C'est des jeux indispensables. Alors Microsoft disait non, non, mais ils sont pas du tout indispensables. Regardez, il y a plein de consoles qui n'ont pas Call of Duty et qui marchent super bien. C'était surtout de Call of Duty dont il s'agissait. Mais bon, ça, c'est un petit peu le classique, hein, le classique de ce genre d'affaires. Là où c'est plus intéressant, c'est deux infos qui sont ressorties avec tout ça. D'une part, le fait que Sony paye visiblement ce qu'on a présenté comme des droits de blocage au Game Pass. Donc ça, c'est une chose que je vais détailler. Et puis l'autre chose, c'est qu'on a eu les chiffres de vente de la Xbox One qu'on n'avait pas eu jusqu'à maintenant parce que Microsoft ne mentionnait pas ces chiffres de vente-là depuis un bon moment, hein, à vrai dire, à partir du moment où ils ont commencé à tomber loin derrière en nombre de ventes de consoles pendant la génération précédente, ben, ils ont arrêté de mentionner les ventes de Xbox One. Et ben là, on les a. Et on est effectivement peut-être un petit peu plus bas encore que ce qu'on imaginait, parce que les chiffres, les estimations
la moitié,
que j'entendais souvent, c'était à peu près peut-être entre la moitié et les deux tiers. Bah là, on serait clairement à la moitié. Donc on est à moins
c'est
de 60
ça, hein,
millions.
58,5 millions contre 117,2 millions pour la PS4. Ouais.
Et du coup, quand on parlait du fait que bah oui, la Xbox One ne décolle pas autant. Alors, 56 millions, c'est pas rien. Enfin, 58 millions, c'est pas rien du tout, hein, malgré tout. Mais ne décolle pas par rapport à la PlayStation 4, qui est l'une des consoles qui s'est le mieux vendue de l'histoire aussi. Donc, faut relativiser. Et ben, c'était quand même largement justifié. Et le fait qu'il montre pas les chiffres, je pense que c'était surtout pour éviter la comparaison, parce que 60 millions, oui. c'est un business qui tourne malgré tout, quoi.
Oui, c'est intéressant parce que un des arguments invoqués pour ne pas révéler les chiffres de vente, c'était de dire que voilà, on ne mesure pas uniquement le succès au nombre de ventes de consoles, ce qui me paraissait, enfin, peut-être plutôt au taux d'engagement, en fait, et de rétention des joueurs. Mais en voyant les chiffres, forcément, on se dit quand même que peut-être aussi, bah, comme tu dis, l'envie d'éviter toute comparaison, surtout quand on fait, ouais, moins de la moitié en vente, quoi.
C'est ça, exactement. Oui, c'est le genre de choses qu'on dit qui est pas complètement incohérente, mais c'est le genre de choses qu'on dit quand on préfère ne pas. Parce que quand les choses se passent bien, ça a peut-être pas d'incidence incroyable, mais on met ces éléments en avant malgré tout. Donc voilà. Et d'ailleurs, Microsoft ne donne toujours pas de chiffre de vente, même si je suis sûr que la Xbox Series X et Series S se vendent très très bien. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils ne donnent pas de chiffre de vente, mais quand ils peuvent dire bah, « ça se vend mieux que c'est notre meilleure vente de console de l'histoire de nos consoles bah, », ils ne se privent pas de le dire quand même, ce qui donne un indicateur, quoi. Bref.
Ouais, mais je serais très curieuse de voir justement, bah, maintenant donc on a le fameux Game Pass qui change un petit peu la donne, voir si l'écart va se réduire en fait, sur la génération de consoles actuelle, si ce sera un écart aussi gros qu'on a pu avoir sur la génération précédente ou si au contraire, ils vont un peu réduire l'écart.
Moi, je pense qu'il est assez certain qu'ils vont réduire l'écart parce que ça a jamais été à ce point. La moitié des ventes de l'autre, ça a jamais été à ce point. Même quand la PS3 a eu du mal à tenir le rythme face à la Xbox 360 à la génération 360. D'avant encore, je pense que la PS3 se vendait au bout de 2 ans ou 3 ans ou à la fin du cycle, ils sont largement rattrapés. Donc, on n'était pas du tout à la moitié. On était plus ou moins à égalité. Et je pense que là, la Xbox Series X se vend très, très bien. Donc, enfin, Series S surtout. Et avec les difficultés de production de la PS5, je crois que c'est beaucoup mieux que la moitié. Mais bon, on n'a pas les chiffres de toute façon, donc. Et donc l'autre info qui était intéressante, c'est cette histoire de blocage du Game Pass qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. De quoi s'agit-il en fait ? Il a été révélé que l'une des choses que Microsoft disait, c'était que, en plus du fait que, ne vous inquiétez pas, Call of Duty sera sur PlayStation de toute façon, on vous l'a promis, puis ils auraient tort.
Tous excessivement rassurés suite à cette nouvelle. Bah, c'est vrai que ce serait se tirer une énorme balle dans le pied que de pas mettre Call of Duty accessible sur PlayStation parce que ça il y a quand même une part de joueurs ultra conséquente, ce serait pas du tout rentable pour Microsoft en fait.
C'est ça, là on parle plus de jeux qui étaient traditionnellement exclusifs, c'est l'un des plus gros jeux de l'histoire et ça rapporte énormément d'argent. Bien sûr, il y aurait un argument à faire pour le dire, on va le mettre sur le Game Pass uniquement, mais clairement la question de la concurrence et de l'anti-compétitivité vient s'y ajouter, ce qui fait que ça règle un petit peu le deal. À mon avis, ils n'ont aucune intention de le supprimer. Mais au-delà de ça, ce qui a été révélé, c'est que Sony payent des développeurs pour ne pas aller sur le Game Pass. Et beaucoup de gens, sur Twitter en particulier, peut-être que ce n'est pas le domaine, enfin le média que je devrais suivre pour ça, mais sur Twitter en particulier, se sont offusqués de cette idée. Et on dit, ben enfin, c'est scandaleux que Sony paye pour bloquer l'accès d'un jeu sur un autre service. J'ai mon avis, mais je suis curieux d'avoir le tien aussi, Julie.
Moi, je ne suis pas tant étonnée par cette pratique parce que la stratégie de Sony, enfin, ça a toujours énormément reposé sur les accords d'exclusivité. Et le fait qu'ils veuillent payer délibérément pour que certains développeurs ne mettent pas leur contenu sur le Game Pass, qui constitue quand même un peu une de leurs craintes. On l'a vu justement quand ils ont exprimé leurs craintes auprès de l'organisme brésilien dont tu parlais tout à l'heure. Ça ne m'étonne pas tant, d'autant plus que ça s'étend à d'autres plateformes, pas uniquement au Game Pass.
Bah, c'est ça le truc, c'est que ce que les gens ont du mal, je crois, à percevoir, c'est que le Game Pass, c'est une plateforme pour Microsoft. C'est pas juste un bonus qu'ils donnent aux utilisateurs de Xbox. C'est une plateforme pour eux. Et donc, le fait que Sony dise « Bon, bah, on veut l'exclusivité du truc », ou même que sur notre plateforme de streaming, le truc soit dispo, ou même sur notre autre plateforme qui n'est pas du streaming, qui est juste la PS4 ou la PS5, et on ne veut pas que vous alliez sur cette plateforme-là qui nous fait de l'ombre, ou qui a le vent en poupe, bah, c'est un accord commercial. Et puis, ce n'est pas qu'ils donnent de l'argent pour interdire d'aller quelque part. C'est une question d'exclusivité. Et le développeur est payé pour ça. Et donc, il a ses rendus. Et ça a provoqué des discussions sur la question de la légitimité, de l'exclusivité des jeux tiers ou même first party, qui pour moi n'a aucun sens. Enfin, ça a fait ressortir en fait le vieux débat, est-ce que les exclus, c'est bien ou pas ? Et pour moi, c'est vraiment une mécompréhension du fonctionnement de l'industrie. Les exclus sont simplement c'est même pas un mal nécessaire, c'est un outil marketing qui arrange à la fois les développeurs de plateformes, enfin les constructeurs, et les développeurs de jeux. Parce qu'un développeur, quand il obtient une exclue quand il met son jeu en exclue quelque part, il est payé. Donc il y a des gens qui disaient « Ah oui, mais il faudrait que les exclus de third party... » Encore à la limite, si Sony fait un jeu, ok, qu'ils le mettent en exclue sur leur console, encore heureux, merci, hein, c'est très généreux de votre part. Mais les third party, il ne faudrait pas qu'on puisse les rendre exclus. Et c'est le genre de raisonnement qui me m'horripile un petit peu, parce que au-delà de la logique qui me paraît boiteuse, comment est-ce qu'on ferait pour implémenter ça ? On va interdire aux développeurs de se faire payer par quelqu'un pour mettre leur jeu en exclu sur une telle ou telle console ? Enfin, ça n'a vraiment pas de sens, ce raisonnement, pour moi. Mais je sais pas, peut-être que je suis bizarre sur ce sujet. Enfin, bref. Quoi qu'il en soit, là, il y a le scandale, le dernier scandale en cours, c'est Microsoft qui se plaint que... Microsoft qui se plaint que Sony ne puisse pas... paye des développeurs pour ne pas aller sur le Game Pass. Oui, moi, je pense que c'est juste de bonne guerre, quoi. L'autre gros sujet de la journée, de la nuit même, c'est Embracer qui fait encore l'actualité. Vous vous souvenez, hein, Embracer, c'est ce groupe européen qui s'est mis à racheter des studios. Je crois qu'on peut dire par dizaines. Est-ce qu'ils ont racheté plus de 20 studios ? Je crois qu'ils sont plus de 20. Il faut que je ressorte la page Wikipédia. Hop. Ouais, je suis sur la page Wikipédia et c'est oui, bien plus de 20 ou 30. C'est c'est une centaine de studios. C'est assez énorme. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont racheté encore des studios, ils s'étendent un petit peu au-delà des studios de développement. Ils l'avaient déjà fait, ils avaient une boîte qui fait des jeux de société, ce genre de choses. Ils ont acheté aussi Limited Run Games, que certains d'entre vous connaîtront peut-être. C'est une boîte américaine qui fait des copies physiques de jeux indés qui ont un certain succès, et donc c'est pour acheter des jeux en quantité limitée. Enfin, ils font des éditions limitées pour des jeux, souvent des jeux indés. Donc bref, ils ont racheté cette boîte-là, il y en a une ou deux autres, je ne vais pas partir sur tous les détails, mais surtout, ils ont racheté aussi Middle Earth Enterprises. Qu'est-ce que c'est que Middle Earth Enterprises ? C'est, je ne dis pas de bêtises, Julie, c'est la boîte qui a les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. C'est bien ça, les droits des
écrits. Oui, c'est ça. les droits d'adaptation des œuvres de Tolkien, vraiment toutes les principales œuvres de Tolkien, donc comme tu as dit, les Anneaux, le Hobbit, donc c'est quand même assez massif comme acquisition. C'est vrai qu'à côté, bon, y a quand même des studios assez importants, hein, qui ont été achetés par Embracer, mais ça, je pense que c'est quand même la grosse nouvelle à en retenir, quoi. C'est de se dire qu'en fait, tout dépendra. Enfin, ça s'inscrit vraiment dans la stratégie un peu transmédia d'Embracer, quoi.
C'est ça. Et ils ont déjà des trucs comme Gearbox, c'est la boîte à laquelle on pense, et peut-être la plus connue. Il y a Playon. Ouais. C'est quoi Playon ? C'est Koch Media. Et je pense qu'ils ont changé Koch parce que ça se lit Koch parfois, et du coup Koch Media,
oui, c'est vrai,
en anglais, je crois que ça leur plaisait pas trop.
Mais d'ailleurs, tu dis Playon parce que tu maîtrises la bonne prononciation, mais quand on voit le nouveau nom écrit, c'est pas non plus évident à prononcer.
Ouais,
mais bon, ça
Playon,
se prononce pas Koch. C'est déjà une victoire. Ouais, ça s'appelle Playon. Je me suis un peu creusé la tête avant de voir comment il fallait le prononcer. Ouais.
Non, je
mais
pense
oui,
que c'est
puis Playon. Ils ont
THQ Nordic, ouais, enfin, ils ont plein de boîtes.
Mais... Ouais, puis des petits studios il y a aussi des studios comme Tripwire Interactive, Tuxedo Labs. Enfin, ça fait quand même beaucoup de choses.
C'est ça. Mais vraiment, Middle Earth, ça veut dire que la série The Rings of Power, les Anneaux du Pouvoir, qui arrive là en septembre sur Amazon Prime, bah c'est une série en fait dont elle appartient à Amazon, mais je veux dire les droits ont été payés à Middle Earth Enterprises, c'est eux qui gèrent les droits des. Enfin, moi ça me paraît, c'est peut-être parce que je suis un enfant des années 80 et que tu vois Donjons et Dragons et Tolkien et tout, c'est l'archétype de l'heroic fantasy. J'ai l'impression qu'ils ont racheté l'heroic fantasy un petit peu, tu vois.
Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Et puis on sait en plus qu'il y a beaucoup, il y a plusieurs adaptations et jeux prévus autour de la licence Seigneur des Anneaux, donc ça fait pas mal de choses quand même.
Ouais.
Parce qu'il y a la série Amazon que tu citais, il y a aussi un film d'animation qui doit sortir en 2024 et qui est produit par Warner Bros, je crois. Un jeu mobile, enfin c'est complètement massif.
Et je crois qu'il y a un autre jeu dont ils parlaient dans leur communiqué de presse ou je sais plus où, il y a un autre jeu, le Seigneur des Anneaux, qui est en préparation. Peut-être que c'était une rumeur ou un leak, mais bref, oui, donc le Seigneur des Anneaux c'est quand même gros, quoi. Et Embracer, oui, il continue à faire des annonces comme ça tous les quelques mois. Je suis pas allé regarder le financement de Embracer, mais je me demande d'où vient leur argent, en fait. Parce qu'à chaque fois, c'est quelques centaines de millions, tu sais, qui sont genre, va racheter ça et ça, mais ils ont des investissements où c'est un milliardaire qui s'est dit, bon, maintenant je veux faire du jeu vidéo, et il s'est dit, je vais mettre 10 milliards dedans. Enfin,
c'est probable.
C'est Lars Wingefors. Je pourrais vous le prononcer à la suédoise, mais je ne vais pas le faire, qui l'a fondé il y a 11 ans. Et c'est une boîte publique, mais je ne sais pas d'où, parce que ce n'est pas qui. Tu vois, autant on parle des gros développeurs, autant les jeux, bon, il y en a, mais ce n'est pas des jeux qui te font racheter le Seigneur des Anneaux, qui marchent tellement bien que. Enfin bon, bref.
Non, c'est clair. Après, je pense que c'est une licence qui a tellement de potentiel, il y a des chances qu'ils rentrent dans leurs frais.
Ouais, t'as peut-être pas de mal à trouver des investisseurs pour ça. Mais oui, c'est ça, c'est qu'elle a été, pour moi, cette série, depuis la trilogie au cinéma, elle a été un petit peu pas maltraitée, mais pas bien gérée, il n'y a rien eu. Depuis, il y a eu le Hobbit,
bah, c'est ça.
Incroyable, mais...
Et tu es très gentil en disant ça.
mais il y a tellement à faire avec le Seigneur des Anneaux et le Silmarillion et le Hobbit peut-être, mais le monde en fait, on s'en fout des histoires spécifiques dont on va parler, mais les personnages...
L'univers en soi.
C'est ça, quand on parle d'univers cinématographique ou série et tout, mais il y aurait mille choses à faire, alors il faut que ça soit bien, mais quand même.
Ouais, ça c'est la principale préoccupation. Le fait qu'il y ait énormément de choses à faire et de potentiel, ça bien sûr, mais moi ce que j'attends de voir vraiment avec une vive impatience, c'est un bon jeu ou une bonne série.
Oui.
Pas été vraiment...
Et puis puisqu'on est dans le rendez-vous jeu, on parle de jeux vidéo, le truc qui va arriver, donc il y a un jeu mobile, il y a le jeu de stealth là. Ah ! Comment il s'appelle le personnage principal du... Pas le personnage principal, mais
Tu veux dire le jeu qui est vraiment ciblé sur Gollum, ouais.
Voilà, Gollum.
Oui, et dont les premières images n'étaient pas ultra encourageantes, on va dire. Mais ça, je trouve qu'il y a un énorme potentiel hein, pour
ben
toi.
Ouais.
Faire un jeu d'infiltration avec lui.
Middle-Earth, oh bah, peut-être. Ça, moi, je t'avoue que je ne l'attends pas trop. Mais Middle-Earth Shadow of Mordor, par exemple, c'est pile mon genre de jeu. Je l'avais adoré. Et puis, ils en ont fait deux, ils sont arrêtés. Mais pourquoi tu ne fais pas... Enfin, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas... J'ai peut-être poussé un petit peu le bouchon, mais je ne comprends pas commercialement pourquoi il n'y a pas un jeu Middle-Earth, un jeu Seigneur des Anneaux chaque année. C'est bizarre, ouais. Si tu as la licence, tu vas l'exploiter. Et, ou au moins, bon, j'exagère en disant chaque année, mais tous les 2-3 ans, tu peux sortir un truc. Bon.
Il y a peut-être la même malédiction que celle qui touche Harry Potter, dans le sens ouais. où, qui va peut-être être rompue avec Hogwarts Legacy, on verra. Mais le fait que voilà, on a un univers massif avec énormément de personnages, de possibilités à explorer, mais très peu de bons jeux finalement. Quoi. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi à s'emparer d'une manière aussi, aussi appréciée en fait, des joueurs,
ouais.
enfin des joueurs, des lecteurs à travers le monde. On a forcément des exigences. Différente avec un univers qu'on a autant aimé arpenter par le passé.
On me dit que Warner Bros. A perdu la licence et c'est pour ça qu'il n'y a plus de jeux Middle-Earth. Ok, mais il aurait pu y avoir d'autres jeux. Bon, peut-être que c'était le temps de développer, etc. Mais bon, bref. Bref. Et oui, le Wonder Woman de Monolith, je l'attends énormément, évidemment. Évidemment. Bon, donc peu de grosses news. Il y en a plein dans la troisième partie de l'émission, mais on va vous parler des jeux du moment, parce que là, il y a de quoi faire. Avant ça, quand même, un grand merci encore une fois aux Patriotes qui soutiennent l'émission, qui lui permettent d'exister. Donc, si vous appréciez l'émission, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/rdvjeux, machin, vous connaissez. Et un merci aussi aux gens qui laissent des commentaires sur iTunes. Et je vais vous en lire un. Alors, il est très bien, le commentaire, mais c'est Matthew Murdoch. Doc qui l'a laissé et je pensais pas un jour avoir un commentaire de Daredevil, donc je me sens obligé de
la lire. Classe
et carrément la classe, l'un des indispensables à écouter, tout ce qu'il faut pour vous tenir informé des dernières news des jeux vidéo, des avis objectifs. Voilà, c'est pas moi qui le dis, avec des invités aux coups différents, vous retrouverez sans aucun doute ce qui vous correspond. Merci beaucoup Matthew Murdoch de Suisse, merci à toi et merci à tous ceux qui laissent des commentaires et des notes sur les plateformes d'écoute de podcast et bien sûr ceux qui soutiennent sur Patreon. Les liens sont dans les notes de l'émission, patreon.com/rdvjeux.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
J'entends que ma fille s'est réveillée. Donc ma femme est allée la récupérer. Ça devrait tenir. Donc on va continuer. Si jamais il y a.
Moi j'ai des problèmes de connexion. Toi tu as des problèmes familiaux. Chacun,
c'est ça, ouais.
Chacun ses tracas.
Moi j'ai des problèmes d'enfants. La différence c'est que a priori les problèmes de connexion ça peut s'arranger avec le temps. Tu vois. C'est ça la différence.
Essaye de le redémarrer au cas où.
Bon alors les jeux auxquels on a joué, il y a de la matière. On se lance. Les jeux vidéo, ouais, je vais laisser l'honneur aux gens compétents. Julie, à quoi as-tu joué? J'ai beaucoup. Alors, je sais que tu n'as pas joué qu'à ça, mais j'ai très envie d'entendre parler de Rollerdrome, parce qu'il est sorti un petit peu de nulle part et j'entends beaucoup de bonnes choses. Mais commence par le début et je vais look forward to Rollerdrome dans quelques minutes. Est-ce qu'elle a disparu encore?
Bah, je suis là.
Ah, d'accord.
excuse-moi. J'ai juste pente. Mais oui, Rollerdrome, bah justement, c'est comme toi, en fait. Hein, c'était un jeu que je. C'est vraiment un jeu qui a un peu surgi de nulle part. Moi, j'en ai appris l'existence à peine avant sa sortie. Et j'étais ultra excitée dans le sens où il est développé par Roll7, qui avait notamment sorti le dernier Holy Holy World en février, que j'ai adoré. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas joué, c'est donc un petit jeu de skate. Excessivement coloré, avec une direction artistique qui rappelle un peu Adventure Time, mais qui, derrière ses airs un petit peu mignons, cache un gameplay assez exigeant. Et donc, Rollerdrome, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu Alors, ça va paraître très bizarre dit comme ça. C'est un jeu qui mêle jeu de tir et roller. Et vraiment, on est dans un délire à la rollerball. C'est avec une direction artistique inspirée par Moebius. Et c'est vrai qu'après Sable, je crois qu'on attendait tous, en fait, un jeu qui reprend un peu ce type d'inspiration, mais qui dispose d'un réel gameplay, sans avoir une pléthore de bugs. Et là, en gros, c'est un jeu qui se déroule en 2030. On incarne un personnage qui s'appelle Kara Hassan et qui est une star donc du Rollerdrome, cette fameuse discipline qui mêle tir au pistolet et roller. Et c'est, je pense que je vous conseille de regarder quelques images. Elles parlent d'elles-mêmes, mais c'est vraiment très très fluide et agréable à jouer. Là, pour l'instant, j'en suis. J'ai pas passé énormément de temps dessus pour le moment, mais je suis très contente en fait de voir que la promesse est tenue, d'avoir un gameplay plaisant et une esthétique qui, moi en tout cas, me séduit complètement.
Je pense que c'est
un des gros arguments de vente, quoi.
Je dirais même au-delà de l'esthétique, oui, l'esthétique c'est Moebius et ça plaît beaucoup. Moi, je t'avoue que je suis pas particulièrement fan, donc c'était intéressant dans Sable. Là, ça doit faire 3 ou 4 qui reprennent le même style. Je commence déjà à en avoir soupé. Mais le fait est que, au niveau style, c'est la définition de stylé, quoi, ce que tu vois. T'es sur tes rollers, dans des arènes de rollers, et tu fais, en fait, tu enchaînes les tricks. Et au milieu de tes tricks, c'était la tête en bas en train de faire des 360 et des grinds sur les rampes. T'as des ennemis de différents types que tu es en train de viser. Parfois, t'as des effets genre Matrix ralenti.
Oui, tu
genre
peux avoir des ralentis. Ouais, ça participe au côté ultra plaisant du truc. Et ce qui est intéressant, c'est que disons que les tricks sont aussi importants que le tir. Moi, en fait, ma première crainte, ma première appréhension, c'était que en fait, ce soit juste comment dire, ce côté un peu fusion insolite, que ce soit juste un truc qui donne envie aux joueurs de venir et qu'au final, qu'on se rende compte qu'en fait, c'est soit juste un jeu de roller, soit juste un jeu de tir et qu'il n'y ait pas réellement de mélange des deux comme promis. Alors que là, finalement, enfin, en tout cas, là, encore une fois, c'est un avis à prendre avec des pincettes parce que j'ai joué vraiment à peine une heure, mais il y a un côté, on a l'impression que les deux sont tout aussi importants.
Ouais. Ce que j'en ai entendu, moi, c'est que vraiment, ça se présente comme une sorte de mélange entre Tony Hawk, évidemment, parce que roller, ou enfin, skate, ouais, machin, et Doom, c'est-à-dire que Doom 2016, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cet esprit où chaque ennemi, il n'y en a pas des tonnes, mais chaque ennemi a des caractéristiques spécifiques, et l'intérêt de chaque nouveau niveau, c'est qu'ils vont mélanger un petit peu les différents ennemis qu'ils vont te mettre, et donc tu dois utiliser tel ennemi pour faire tel truc avec telle arme, qui va te permettre de faire tel autre truc avec tel autre ennemi. Enfin, c'est vraiment c'est pas non plus peut-être pas le jeu de la décennie, mais il y a une profondeur inattendue dans la gestion du gameplay et le game design, finalement. C'est ça que je cherche à dire. C'est pas juste c'est sympa de faire du roller et de tirer sur les gens. Il y a un vrai game design profond, quoi.
Ça et une musique vraiment ultra chouette, en fait, qui je trouve que ça fait, c'est vraiment un bon petit jeu d'été, en fait, à lancer sans prise de tête, juste pour enfin, qui est très très plaisant à jouer, quoi. Exactement, c'est vraiment un jeu fun, quoi. Mais comme tu dis, qui fera pas nécessairement date, mais qui est incroyablement fun.
Il y a des gens qui commencent à le mettre dans leur top 10 ou top 5 de l'année. J'ai l'impression que toi, t'es pas à ce point charmé. Mais
non, pas à ce point, mais voilà, j'aime beaucoup. Mais c'est comme Holy Holy World, en fait, pour moi, c'est un peu le même type de jeu dans lequel on va se réfugier si on a besoin, en fait, juste de faire quelques tricks, quoi, pour se sentir bien, activer son système de récompense après quelques tricks. Ouais.
Donc voilà, c'est un jeu qui est dispo sur PlayStation et PC, c'est une exclue console PlayStation, donc voilà, encore un truc où les méchants Sony ont payé pour avoir une exclue.
Évidemment.
Mais il fait beaucoup de bruit. Je pense que c'est le genre de jeu de la semaine ou du mois, la bonne surprise, surtout que personne l'avait vu venir, au minimum, quoi. Il y a aussi d'autres trucs auxquels t'as joué qui sont peut-être un petit peu moins récents.
Oui, tout à fait. J'ai profité des vacances d'été, en fait, pour me plonger dans un jeu que j'avais envie de faire depuis longtemps, qui est Kentucky Route Zero. Donc un jeu de cardboard computer, donc qui se situe, alors comment décrire ça, entre le jeu d'aventure textuelle, entre le genre littéraire du Southern Gothic et la filmographie de David Lynch. Où en fait, on incarne un roulier qui doit livrer des antiquités à une adresse qu'il ne connaît pas et qui lui impose de passer par une mystérieuse route qui s'appelle la Route Zéro. Et c'est un jeu donc qui est divisé en 5 actes, qui est très inspiré aussi du théâtre, où il y a vraiment donc plus 5 actes et plusieurs scènes à chaque fois. Quand je parle de la filmographie de David Lynch, c'est dans le sens où il y a un côté complètement abscon, un peu onirique par moment, mais qui fonctionne ultra bien, je trouve. C'est un chouette jeu, en fait, dont il est difficile de parler sans trop spoiler, parce que je trouve qu'il y a des scènes, moi, qui me marqueront. Enfin, vraiment, certains moments que j'ai fait, je recommande de le faire au casque, parce que le design sonore du jeu est assez fantastique. Il est fantastiquement bien écrit, je trouve, et très bien traduit. Et il y a des moments, moi, en tout cas, qui m'ont complètement marqué, je pense, plus de... C'est la manière dont je les ai vécues, à savoir dans le noir, avec un casque et à être complètement soufflé parce que j'étais en train de voir ce qu'ils arrivaient en fait à me faire ressentir avec juste quelques lignes de texte et des, on va dire, des graphismes un peu sommaires. Mais ce qui marche très bien, je trouve, c'est que c'est pas réellement un jeu à choix, en fait, où on va se contenter de choisir des dialogues qui auront une incidence plus tard. C'est qu'au final, les choix qu'on fait disent plus sur nous que sur, que sur le jeu. C'est pour moi, c'est vraiment de la littérature transposée au format jeu vidéo. Je trouve que ça marche très très bien. Il y a une scène de l'acte 3 que je me permets de citer, où il y a un concert donné par une artiste qu'on rencontre au fil du jeu, et où en fait on choisit les paroles qu'elle va chanter plus tard. Et ça fonctionne ultra bien. On peut soit faire une chanson d'amour ultra mélancolique, soit un message plein d'espoir, ou au contraire un truc plein de rancœur qui va potentiellement en dire beaucoup sur notre état d'esprit du moment. Et je trouve ça vraiment fantastique et je le recommande vivement.
C'est un truc
dont je sais pas si tu l'avais fait, toi, Patrick.
Non, c'était... Il est sorti il y a 6 mois, 1 an, quelque chose comme ça. Enfin, il était en early access, en développement depuis très très longtemps, et le cinquième acte est sorti... Enfin, ça a duré 10 ans, le développement, un truc comme ça. Et le cinquième acte est sorti il y a quelques mois, c'est ça ? Avec la TV Edition qui regroupe tout.
Je crois que, si je me trompe pas, c'était l'année dernière que le dernier acte est sorti. Mais c'est vrai que c'est un jeu...
J'ai le trailer PS4, c'est janvier 2020, donc ça fait un petit peu plus de 2 ans.
Ah oui, non, mais ça fait carrément 2 ans, le temps passe beaucoup trop vite. Mais sachant que l'acte 1 était sorti en 2013, ça s'est étalé sur 7 ans, mais après oui, c'est vraiment un jeu réalisé par une toute petite équipe. On a 2 développeurs, Jack Elliott et Tamas Kemensi, que j'ai peur de mal prononcer. Et donc forcément, oui, c'est un projet très modeste, mais qui a connu un énorme retentissement et qui a eu une grande influence en fait au sein de la scène indé. Je recommande un article du Monde qui s'appelle quelque chose comme « Est-ce que Kentucky Route Zero est un des jeux indépendants les plus influents de la décennie ?» où beaucoup en fait de développeurs indépendants reviennent sur l'influence qu'a eu le jeu sur leur propre production.
C'est vraiment un jeu qui compte, parce que moi, je te dis, je l'ai pas, donc j'y ai pas joué, mais à sa sortie en 2020, je crois que j'ai rarement entendu... Il faudra que j'y retourne et que je le fasse à un moment, parce que je crois que j'ai jamais entendu les gens parler d'un jeu comme ils parlent de Kentucky Route Zero. Ça a l'air d'être vraiment un truc à part. Ou en tout cas, il y a très très peu de jeux de ce type-là. Et la manière, comme tu le disais, hein, la manière dont ça t'influence, non pas parce que... Il y a plein de jeux, en fait, qui sont interactifs et qui vont t'influencer parce que c'est fun ou c'est prenant ou c'est quelque chose... Ou même un truc comme The Last of Us, ça t'impacte parce que tu rentres dans le truc. Et il y a plein de jeux qui sont des walking simulators qui vont te raconter une histoire. Celui-là a l'air d'être... Peut-être que c'est le style qui est un petit peu, enfin, je sais pas, surréaliste ou tellement artistique, mais
réalisme magique. Ouais. Bon, c'est ça qui marche très très bien. Non, et puis c'est vrai que habituellement, ce type de jeu narratif où on a plusieurs embranchements, plusieurs possibilités de dialogue, ça va impliquer des choix, enfin une certaine forme de stratégie. Là, c'est absolument pas le cas. Ça permet juste au jeu de garder en mémoire des mots qu'on a pu sélectionner à un moment ou un autre, mais ça va pas nécessairement changer l'influence du déroulé du jeu. C'est plus nous, notre ressenti en tant que joueur, et ça, je trouve ça ultra intéressant.
C'est toi qui t'imprime dans le jeu. Qui imprime en fait un petit peu de toi, sans que ça n'ait de conséquences sur le déroulement du jeu ou la narration du jeu, plus que ce que toi tu as fait comme choix. C'est intéressant comme
et bah, il peut y en avoir. Forcément, il y a des choses on va apprendre plus de choses sur certains sujets ou d'autres, mais disons qu'il n'y a pas du tout cette notion d'enjeu stratégique par rapport au choix.
D'accord. Et puis tu as joué aussi un jeu dont beaucoup de gens ont déjà parlé, y compris dans cette émission, c'est Stray, le jeu du petit chat, que moi, je vais le réavouer, j'espérais presque qu'il soit mauvais, parce que ça m'a énervé la manière dont il a été tellement... Pardon ?
Je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais.
Ouais.
C'était, bah, moi, je me situe un peu à l'opposé.
Tellement mais été populaire juste parce qu'il y a un chat dedans, je me suis dit, mais c'est quoi ? Et en fait, tout le monde l'aime et il semble bien, donc...
Alors moi, ouais, c'était un peu l'inverse, c'est qu'il y avait tellement d'éléments que je trouvais chouettes, notamment effectivement la présence du chat, qui est un énorme argument de vente pour le jeu. Mais il y a un truc qui est que j'avais vraiment envie de l'aimer parce que je trouvais les images, le principe super chouette. Mais j'ai été, en fait, j'avais aussi quand même cette crainte que ce soit juste un jeu gimmick, vraiment, qui repose sur le fait que Internet aime les chats, les gens aiment les chats, c'est comme ça. Mais non, il y a quand même énormément d'éléments. Moi, ça m'intéressait aussi de voir si un mois après, le jeu, enfin, en tout cas, à titre personnel, allait encore me marquer, parce que vraiment, quand je l'ai fait, je m'attendais pas à avoir une expérience narrative aussi courte, mais néanmoins dense. Mais le fait est que ça fait un mois que j'y ai joué et en fait je l'ai refait depuis parce que vraiment j'ai tellement apprécié l'expérience. Ouais. Bah après il y a aussi le fait, je pense, que ce soit très court qui moi m'a poussé à le refaire, mais pour le faire découvrir à quelqu'un d'autre, je trouve que c'est vraiment comment dire une très bonne expérience courte dans laquelle je sais que j'aurai envie de me replonger peut-être dans bon alors je vais peut-être attendre un petit peu mais je vraiment ça c'est le premier soulagement que j'ai eu, c'est de se rendre compte que c'est pas juste un jeu blague, un jeu gimmick avec un chat ce qui fait marrer tout le monde, c'est que derrière il y a une vraie histoire, il y a des vraies mécaniques, un univers qui est absolument magnifique. Je trouve que l'inspiration de la citadelle de Kowloon est ultra intéressante parce que c'est un univers qui est complètement dingue mais qui a été finalement très peu exploité dans le cinéma et les jeux vidéo. Et
je connais pas la citadelle de Kowloon.
La citadelle de Kowloon, en fait, c'était une enclave à Hong Kong qui a été démolie, si je me trompe pas, au début des années 90, où en fait, il y avait énormément de petites échoppes, de magasins qui s'entassent les uns sur les autres, et où régnait une ambiance très particulière. Hein. Enfin, on pouvait aussi bien y trouver des dentistes de fortune que des prostituées. Là, tout cet aspect a été complètement édulcoré dans Stray, mais on retrouve quand même cet esprit, l'architecture tout en verticalité. Et ça marche très bien. Et c'est intéressant de se dire que Stray, à la base, c'est juste donc les deux artistes qui ont cofondé le studio Blue 12 avaient eu cette idée en fait de partir de la citadelle de Kowloon, se dire c'est un environnement ultra intéressant à explorer, et ensuite après partir de l'idée qu'un chat ce serait intéressant de le faire parce que ça permettrait de passer par des petits couloirs, de sauter un petit peu partout et d'avoir des points de vue assez intéressants sur ce type d'environnement. Mmh. Et après tout l'aspect cyberpunk, ce qui est intéressant, j'en avais discuté avec un des producteurs. C'était pas du tout parti pour être ça à la base. C'est juste qu'ils se sont rendus compte que, vu qu'ils étaient une petite équipe et ils le sont restés, même quand Annapurna s'est emparé du projet, ils ont tenu à rester une petite équipe. C'est que c'était trop compliqué en fait et trop coûteux de faire par exemple des visages humains. Disons que ça détonnait un peu avec l'environnement léché qu'ils essayaient de produire. D'où l'idée à la base de faire des robots un peu avec un visage un peu sommaire. Et ça a finalement complètement dicté l'histoire et le scénario plus tard. Et ça marche très très bien, je trouve. Moi, je trouve ça toujours intéressant de voir comment les contraintes techniques peuvent inspirer les développeurs. Enfin, le cas emblématique, je dirais que c'est celui de Silent Hill, où finalement toute la brume, c'était censé faire office de cache-misère pour les environnements, ouais. Mais ça a contribué à donner une énorme identité au jeu et à faire partie intégrante de son scénario.
C'est super intéressant, je ne savais pas du tout. Et c'est vrai que si tu dois faire des visages, c'est quand même beaucoup plus compliqué, surtout si tu essayes d'avoir un truc léché et réaliste. Bah, autant mettre robots avec des écrans comme visage, c'est... Ça marche très bien.
Ah bah c'est ça, et c'est ce que racontait le producteur, c'est qu'immédiatement, le contraste, eux, les a séduits et ça les a inspirés. Et c'est comme ça que le jeu a pris la forme qu'il a eu aujourd'hui, et je trouve ça vraiment hyper intéressant.
Tu mentionnais Annapurna, c'est aussi Annapurna qui a édité Kentucky Route Zero. Donc vraiment,
oui,
je crois qu'encore plus que Devolver, Annapurna confirme qu'ils sont l'éditeur où, quand ils éditent un jeu, bah, tu t'y intéresses parce qu'ils ont eu tellement de bonnes pioches.
Alors, pour moi, c'est ce que tu dis, c'est toujours vrai. Mais disons que pendant un temps, pour moi, c'était un quasi sans faute. Je regardais leur catalogue et je me disais, mais aucun de ces jeux est inintéressant à mes yeux ou n'est raté. Mais disons qu'il y a plusieurs sorties récemment qui m'ont un peu dissuadé de faire confiance aveuglément à Annapurna. Et ces deux exemples, c'est 12 minutes. Mais ça, je sais que les avis divergent. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment pas du tout aimé, alors que je trouvais le principe ultra prometteur. Et le cas de Maquette. Donc, ça leur arrive d'avoir des ratés de temps en temps, mais c'est vrai que quand même. Maquette.
Maquette, oui. Non, il n'était pas réussi, Maquette. Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est ça. Mais après, c'est vrai, quand tu regardes dans l'ensemble, leur catalogue est quand même plutôt excellent. Ouais.
Je dirais que, c'est-à-dire qu'il y a encore un ou deux ans, j'aurais limite acheté sans savoir de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, c'est que je m'y intéresse. Je regarde le trailer et je me dis, ah, attends, c'est Annapurna, donc je vais regarder. C'est pas.
Ouais, voilà.
Donc oui, Annapurna, et je fais un salut à d'autres personnes qui expriment sur le chat le fait qu'eux aussi espéraient presque que Stray soit mauvais, juste par...
Mais ça, c'est parce que ce sont des personnes qui préfèrent les chiens, tout simplement.
Oui, non, moi, j'aime pas les animaux, j'aime pas les gens, j'aime pas les choses vivantes, tu vois, j'aime bien les ordinateurs. Mais en même temps, il y a des ordinateurs dans Stray. Si on avait, si on avait vécu, si on avait joué un ordinateur dans une ville de chats, peut-être que ça m'aurait plus plu.
Un jeu qui pourrait énormément te plaire, et ce serait, je sais pas si tu avais fait observation, où là, t'incarnes directement une IA.
Oui, je connais le jeu, je l'ai pas fait.
Il était tellement
bien. Alors peut-être oui, voilà, un truc où je suis bien.
Voilà, c'est ton jeu, Patrick.
Très bien. Bon, mais en vrai, je suis très content que les gens aient été séduits par Stray et qu'ils aient été contents, évidemment. Donc, c'est à mon tour maintenant de vous parler des jeux auxquels j'ai joué. Alors, il y en a trois. D'abord, Tales of Arise, dont je veux encore vous parler, mais vraiment, je veux vous en parler, alors que je vous en ai parlé la dernière fois. Rumbleverse, un tout petit peu. Et puis, Cult of the Lamb, qui a aussi fait beaucoup de bruit ces derniers jours et cette dernière semaine. D'abord, Tales of Arise. Vous vous souvenez, la dernière fois qu'on se parlait, j'étais à la fin. J'étais quasiment à la fin, j'avais fait genre le nombre de chapitres, je savais que j'en étais au dernier. Et je pensais qu'il me restait aller 2-3 heures et c'est bouclé. Et il y a quelqu'un dans la chatroom qui m'a dit « Mais qu'est-ce que t'as pensé de la fin ?» Qui a très gentiment pas voulu spoiler quoi que ce soit, et je vais pas spoiler non plus. Mais qui a dit « Mais t'as pas été un peu déçu de la fin ?» Ou « Qu'est-ce que t'as pensé de la fin ?» comme ça. Et j'avais juste dit « Bah non, enfin je suis pas à la fin, fin, mais moi je trouve ça bien, machin. » Et ben Je comprends maintenant pourquoi cette personne m'a posé la question, parce que bon sang, cette fin de jeu que j'ai aimé pourtant, je l'ai vraiment aimé, c'est 40 heures de jeu, vraiment un immense plaisir, mais là, ce qui vient après m'a paru, il reste, en fait je pensais qu'il restait 2-3 heures, il en restait 10 ou 15, et elles m'ont paru 150. Mais c'était...
Mais dans le bon sens du terme, visiblement.
Mais dans le plus mauvais sens possible du terme. C'était insupportable. Le jeu s'est transformé. D'abord, il s'est transformé en visual novel. Alors, évidemment, Tales of, il y a toujours les petits skits, les petits moments de discussion, il y a beaucoup de parlotte. Mais là, on avait des sections de, je sais pas, une heure... où on nous expliquait des trucs sur le monde, et puis on allait marcher 2 mètres, et on recommençait, tu vois, il y avait 20 minutes de discussion, on marchait, et puis il y avait encore 20 minutes de discussion, alors que, justement, ce qui était hyper bien dans le jeu jusque-là, c'est que c'était très rythmé, t'avais vraiment de l'action par moment, en fait, le jeu se transforme en quelque chose qu'il n'était pas du tout, d'une part, il y a ça. D'autre part, ce qu'on te révèle encore, si c'était intéressant, ça serait génial, mais c'est... vraiment à la japonaise, vraiment, comment dire, tiré par les cheveux. C'est des trucs genre mythologiques, qui sont hyper préoccupés par des... Enfin, bon, si vous avez déjà fait un RPG japonais ou regardé un mauvais manga ou animé de ce type, vous savez de quoi je parle. C'est non seulement un petit peu ridicule, mais en plus, vraiment pas présenté de manière intéressante. Ça t'explique pourquoi l'esprit de la planète et l'énergie vitale de telle planète fait ceci et cela, et ça sort 1000 trucs de nulle part qui n'ont même pas vraiment été... Il n'y avait pas d'indice dans les 40 premières heures de jeu, et ça se prend la tête soi-même, et toi, t'es devant ce truc à te dire, mais comment, pourquoi est-ce qu'ils sont... aller faire un truc comme ça, quoi. Qui, encore une fois, n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé avant. Et l'autre aspect, c'est que les combats, les quelques derniers donjons, deviennent... c'est pas les quelques derniers, en fait. Le dernier, il est interminable. Interminable à tel point que... je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu faire un truc hyper épique où tu dois y aller par petits bouts. Mais tous les donjons d'avant, je pouvais y aller avec prudence, sans gros problème, et peut-être m'y reprendre une fois ou deux en ayant dégagé les zones dans lesquelles j'avais pas besoin de retourner. Mais là, c'est un truc qui te prend... c'est un donjon qui fait la taille de peut-être 3-4 donjons différents, et c'est pas que tu es juste, tu vois là où tu vas aller et que tu dis, ok, quand j'arriverai à ce niveau, à cet endroit, ça sera fini. C'est que t'as l'impression de l'avoir fini. Et puis ils te disent, ah non, t'en as encore 2 fois autant à faire. Et déjà, la première le premier truc que tu as fini, c'est hyper long. Et si vous ne connaissez pas dans ce genre de jeu, il y a souvent une ressource qui fait qu'on ne peut pas continuer indéfiniment. C'est une sorte de ressource de soins, en gros. Tu ne peux pas te soigner indéfiniment et donc, au bout d'un moment, tu as trop peu de vie et tu dois rentrer au village pour dormir et repartir. Et les boss, enfin les mobs, ont respawné. Donc, il faut se retaper une bonne partie du truc. Il y a des parties optionnelles que tu as fait et que tu n'as pas besoin de refaire, donc tu peux aller plus loin. Mais c'est comme ça que ça fonctionne généralement. Et là, il y a une longueur du truc qui fait que tu n'as vraiment pas envie de retourner à la base et tout te retaper, parce que ça te prend littéralement une heure ou deux heures de jeu, quoi. C'est vraiment insupportable.
C'est quand même un gros problème, ouais.
Et c'est vrai, comme on me le dit, on me l'a dit sur Twitter, on me le dit dans la chatroom, il y a beaucoup de jeux japonais qui font ça au bout du compte, à la fin, et surtout des RPG qui se perdent dans leur propre histoire. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait de JRPG, et là, vraiment, ça m'a... Enfin, j'ai beaucoup aimé Tales of Arise, ça m'a presque dégoûté complètement du jeu, même de ce que j'avais fait avant et que j'avais aimé, quoi. Presque, donc je continue à le trouver bien et à le recommander même. Mais je dirais, allez au bout, vous le verrez, hein, il y a en gros deux parties au jeu, allez au bout de la première partie et vous pouvez vous arrêter, la suite ça n'a aucun... Enfin... Donc, tout ça pour dire...
Ça a l'air très douloureux.
Ah mais c'est...
Ce que tu décris.
C'est douloureux parce que j'avais tellement longtemps que je voulais faire un Tales of que j'avais pas fait et que celui-là justement il était plus moderne machin... Et j'arrivais au bout, je me suis dit « Ouais, j'ai fait un Tales of, j'ai aimé, j'ai passé un bon moment et c'était un RPG japonais cool, d'action et tout. » Et il m'a presque, tu vois, il m'a regardé, il m'a mis une baffe, il m'a dit « Non, 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 c'est pas ça, tu l'as pas aimé, tu vas le détester, regarde ce qu'on va te faire faire. » Et c'est frustrant.
C'est dommage parce que du coup, j'ai l'impression, ouais, c'est ça que ça a enlevé un peu tout ce que t'avais apprécié au début, quoi.
Un petit peu, ouais.
Que tu retiens plus, en fait, l'amertume de la fin, de devoir recommencer des choses que t'avais aucune envie de refaire.
Ça m'a presque dégoûté du truc. Presque. Je reste quand même... Je l'ai aimé. Tales of Arise, il est bien. Mais cette partie, bon, disons que pour les prochains, je saurai et peut-être que je m'arrêterai avant, quoi. Bref. Je suis clairement pas client du truc parce que c'est pas la plupart des gens ont pas du tout critiqué la chose de cette manière, mais je crois que quand on connaît le genre et le style, on s'y attend. Pour moi qui avais pas fait de gros JRPG depuis un moment, ça m'a vraiment frustré, et je crois que les gens qui pourraient être séduits par ce genre de jeu doivent le savoir. Et un autre truc, c'est que je dis souvent, c'est complètement arbitraire, mais je dis souvent que pour moi, une review, un test, il faut avoir fini le jeu. Et si on n'a pas fini vraiment le jeu, alors ça dépend, pour les jeux service interminables, c'est autre chose, mais pour les jeux solo qu'on peut terminer, j'aime bien quand on finit les jeux avant de donner son avis. Et pour moi, c'est ça un vrai test, une vraie review. Sinon, c'est juste, bon, on donne nos impressions sur un jeu qui peuvent être tout à fait valables aussi. Et vraiment, ça, c'est un exemple parfait. Parce que si je vous avais fait le test, entre guillemets, il y a deux semaines, quand j'en étais là où j'en étais, je vous aurais dit, mais c'est un 8 sur 10, 8,5 sur 10 si je donnais des notes. Et là, tout à coup, ça le fait redescendre, parce que la fin interminable est vraiment douloureuse. Donc, pour moi, il faut vraiment finir les jeux avant de faire un, entre guillemets, test.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Rumbleverse, c'est Rumbleverse.
J'étais très étonné que tu le mettes dans tes jeux du moment. Ouais. J'ai hâte de t'entendre en parler.
J'y ai joué deux heures. Hein. J'ai pas non plus. Il était quoi, gratuit. c'est un jeu free to play qui était sur sur PlayStation. Je l'ai testé. Il est un petit peu partout. C'est un jeu qui a été. Enfin, Iron Galaxy, le développeur, a été racheté par Epic. Et c'est vraiment. C'est un battle royale free to play. Mais au lieu de se tirer dessus comme dans Fortnite, on fait un petit peu du catch en gros. Je schématise, mais c'est un petit peu... c'est même pas que je schématise, en fait. C'est vraiment du catch, quoi. Et c'est marrant parce que ils ont complètement repris l'interface de Fortnite. Mais complètement. Je veux dire, quand on arrive le jeu, on a l'impression d'être dans Fortnite. C'est
ce que j'ai constaté, ouais. Je connaissais pas du tout le jeu, et quand j'ai vu que tu l'avais mis, j'ai regardé quelques images. Et tout de suite, oui, on a vraiment l'impression que ça a capté. À fond sur Fortnite, même un peu dans la DA, etc. Il y a vraiment ce côté un peu cartoonesque qui rappelle tout de suite Fortnite.
Complètement. Mais au-delà de la DA, on a l'impression d'être dans le monde de Fortnite à peu de choses près. L'interface, quand tu sais, l'écran de présentation, c'est exactement Fortnite, mais vraiment 99% de Fortnite. Bref, le jeu, c'est un Battle Royale avec 40 joueurs où on joue genre catch, où le but c'est de balancer les ennemis du haut des immeubles pour qu'ils se fassent le plus de dégâts possible en tombant de haut, tomber en faisant un gros coup de coude sur les ennemis de très très haut pour leur faire le plus de dégâts. On mange des trucs pour regagner de la vie, on apprend des techniques pour faire de plus en plus mal au lieu de récupérer des armes plus puissantes. C'est ce genre de truc. C'est vraiment... Alors là, pour le coup, c'est vraiment impression. C'est un Battle Royale au contact plutôt qu'au... C'est pas le premier à faire un truc au contact, mais techniquement, ça fonctionne. C'est même relativement fun. Les combats sont relativement fun. Mais c'est un exemple de... Je suis pas sûr de... Je suis pas sûr qu'il puisse trouver son public, en gros. Je vois pas qui jouerait à celui-là plutôt qu'à un autre jeu du style. Les jeux genre fun où on va jouer avec des amis, que ce soit un Battle Royale ou pas d'ailleurs, j'ai pas l'impression que celui-là soit suffisamment fun, après 2 heures de jeu, donc ça se trouve au bout de 10 heures ça devient fou, mais j'ai pas l'impression que celui-là soit suffisamment fun pour me capturer mon attention, quoi. Dans un monde où il y a des Fortnite, des Apex, des Among Us, des Fall Guys, ce genre de trucs. Donc, bon, je suis mitigé.
Bon, tu m'as bien convaincu de ne jamais y toucher.
c'est marrant parce que c'est pas un jeu qui est... Je dirais pas du tout qu'il est mauvais. C'est juste qu'il est pas assez bon pour nous convaincre d'y jouer, quoi.
Donc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, et puis après, moi, je dois t'avouer que je suis assez biaisée dans le sens où l'esthétique Fortnite a plutôt tendance à me débecter. Donc, je suis pas du tout attirée par ce genre de proposition. Et si là, tu me dis qu'en plus... les mécaniques de gameplay sont pas fun, ça va être difficile, ouais, effectivement.
Bien sûr. Alors, les mécaniques de gameplay, c'est pas qu'elles sont pas fun, hein. C'est fun. Mm. C'est un petit peu difficile à maîtriser comme un jeu de combat, en quelque sorte. Donc, c'est relativement fun. Et je peux tout à fait voir comment ça devient vraiment fun avec la maîtrise. Mais c'est juste que c'est un autre jeu dans lequel il faut s'investir pour vraiment comprendre les détails du fonctionnement et les détails... au-delà, tu sais, du gameplay à la manette, le fonctionnement de quels objets font quoi, où il faut aller sur la carte, tu vois, la méta du jeu, en quelque sorte. Et donc, il faut vraiment s'investir pour commencer à jouer. Et, je sais pas, moi, je me dis, ça parle presque, c'est pas du tout le même genre, mais ça parle presque au public de Fall Guys qui a déjà Fall Guys, en quelque sorte.
Oui, et puis en plus, Fall Guys a quand même ce côté ultra accessible où t'as pas vraiment ce besoin de t'investir dans le fonctionnement, je trouve. Enfin, c'est vraiment un jeu où tu prends la manette, tu commences la première partie, certes, c'est très très difficile de se qualifier, je pense, au début, mais quand même, il y a cette compréhension immédiate en fait du jeu et de ce qu'il faut y faire et un amusement quasi immédiat sans nécessité de comprendre en fait les mécaniques et le fonctionnement du jeu, quoi.
C'est marrant parce que limite sur Fortnite, un FPS ou un TPS en l'occurrence, tout le monde connaît un petit peu le fonctionnement, donc tu peux tout de suite comprendre. Là, faut vraiment que tu... Et en plus, il y a pas vraiment de tutoriel, c'est assez mal foutu. Il faut que tu comprennes, que tu apprennes la mécanique de base du jeu. Et c'est peut-être un frein à l'adoption du truc. Parce que sur les jeux free-to-play, je crois que souvent, il faut qu'ils se reposent sur une connaissance déjà acquise par les joueurs, que ce soit TPS, FPS, machin, ou Fall Guys. C'est pas compliqué. Tu marches et t'essayes d'arriver là où t'es censé arriver. Voilà, il n'y a rien à apprendre. Après, tu peux apprendre des subtilités, mais sur celui-là, il faut vraiment apprendre un système de combat qui est différent. Donc, je pense que ça risque de jouer en sa défaveur, quoi, cet aspect. Tac, quoi d'autre ? Oui, donc Cult of the Lamb. Oui, alors ça, c'est aussi un jeu un petit peu comme Rollerdrome, qui a fait beaucoup de bruit ces dernières semaines dans les cercles de fans. Et on en avait vu des images déjà qui avaient été présentées il y a un moment, ça fait, je crois, un an que les premières images ont été présentées. C'est un jeu qui est... un mélange entre un roguelike et un jeu de gestion un petit peu limite à la Story of Seasons ou merde, attends, le jeu auquel je pense. Merde, super connu, qui a vendu des millions, développé par un seul développeur. Qui a été
Star sur toutes les plateformes.
Stardew Valley, merci. Et donc, c'est un mélange entre Roguelite et Stardew Valley, avec l'enrobage absolument incroyable de des petits animaux mignons qui vouent un culte satanique à des démons menés par l'agneau qu'on joue nous et qui est donc le chef de ce culte, le culte de l'agneau, le cult of the lamb. Donc, l'enrobage déjà est hyper plaisant parce que c'est super adorable de voir toutes ces bestioles, tu vois, qui font en plus, personne ne parle, évidemment, c'est tous des petits qui genre, tu vois le petit truc qui fait bêh, et ça fait « Oh maître, s'il vous plaît, ne me sacrifiez pas, je peux vous servir jusqu'à la fin des temps », tu vois, ce genre de truc. Et donc, tu explores dans un environnement 3D et les personnages sont tous en 2D, en fait, donc ça donne un look particulier. Tu explores des donjons faits en roguelite, donc aléatoires, pour récupérer des fidèles, des ressources, pour développer ton camp, qui est le camp de ton culte, pour pouvoir ensuite continuer à aller plus loin dans les zones, avoir des bonus, comme dans tous les roguelites, avoir des bonus qui vont te rendre plus fort, pour pouvoir aller encore plus loin dans l'exploration du donjon. Donc c'est vraiment une alternance entre ces deux modes de jeu qui sont tous les deux aussi importants l'un que l'autre, et qui sont tous les deux assez développés finalement. Avec tout cet enrobage, à chaque détour du jeu, tu as l'aspect culte satanique avec des animaux mignons qui constitue l'essentiel de l'esthétique et du propos du jeu.
Ça aussi, tu vois, en voyant les premières images, j'étais ultra séduite aussi parce que bon, forcément, c'est une proposition assez qui marche bien. Moi, forcément, les animaux mignons qui font des choses horribles, on a vu ça dans South Park, on a vu ça dans Happy Tree Friends. C'est toujours super drôle. Et le fait que ce soit édité par Devolver joue un peu. Hein, ils ont quand même ce genre de proposition un peu décalée qui marche bien. Mais j'ai l'impression qu'au-delà de ça, au-delà de ce côté un peu rigolo, il y a des mécaniques qui fonctionnent réellement bien. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais surtout le côté action-aventure, le donjon, ça a l'air de bien se tenir.
Alors écoute, oui, je pense que la critique est unanime. Tout le monde est d'accord pour dire que tout fonctionne. Et à vrai dire, moi aussi, je trouve que mécaniquement, alors c'est pas Dead Cells, c'est pas Hades, mais c'est quand même sympa au niveau mécanique. Les combats sont cool et le moment-to-moment gameplay fonctionne, c'est certain. La gestion du camp est assez complexe, c'est pas juste un gimmick. Il y a vraiment des choses à prendre en compte, à stratégiser, des choix à faire. Est-ce que tu vas être vraiment un culte où tu vas sacrifier tous tes fidèles pour avoir des bonus incroyables ou alors les soulager un petit peu en disant que quand ils meurent, ils se retrouvent dans un endroit, dans un monde meilleur et donc ceux qui restent vont te donner plus de force, ce genre de choses. Tu peux orienter les choses. Le problème, en fait, donc vraiment, c'est oui, ça fonctionne, c'est un bon jeu, tout le monde aime bien, tout le monde a raison. Et je suis très content d'avoir constaté que c'était le cas. Le truc, c'est que la partie gestion, c'est une vraie partie gestion et il faut vraiment jouer un jeu de gestion. Donc, le reproche, si on pouvait lui en faire un, et moi, ça s'applique à moi, c'est qu'il faut aimer les deux styles de jeu, en fait. Pour aimer ce jeu-là, il faut aimer les parties roguelite et il faut aimer la partie gestion. Et moi, je suis pas super fan de la partie gestion. D'autant plus que sur les là non plus, j'ai pas fini le jeu. J'ai passé peut-être 5-6 heures. Il t'ajoute des fonctionnalités toutes les 15 minutes. Et ça s'arrête jamais, quoi. Il y a alors les rituels, les édits, la carte sur laquelle tu peux explorer plus loin, les cartes de tarot. Il y a tellement de choses qui sont introduites tellement rapidement. À la limite, sur la partie roguelite, tu peux continuer à taper les ennemis, tu vois. Mais sur la partie gestion, il faut que tu te souviennes de tout ça. C'est un petit peu compliqué. Alors, tu es assez guidé, donc c'est pas rédhibitoire. Mais pour quelqu'un qui n'est pas fan, ce n'est pas le truc qui va... Moi, je suis toujours à la recherche du jeu qui va me faire découvrir un nouveau genre auquel j'étais un petit peu hermétique et qui, par le truchement de, l'alliage à un nouveau jeu, une hybridation ou une simplification ou une meilleure manière d'introduire le truc, va m'amener à apprécier ce genre de ce style. Et là, je dirais que ce n'est pas vraiment ça qui va me faire apprécier les jeux de gestion parce que c'est paf, il te met la tête dedans, il faut que tu gères, il faut que tu nettoies les crottes et que tu fasses de la, des bâtiments, que tu les construises dessus de plus en plus gros et que tu gères limite chaque fidèle. Alors, tu en as une dizaine, hein, c'est pas non plus impossible. Là où j'en suis, j'en ai à peu près une dizaine, mais il faut que tu gères chaque fidèle que tu lui dises. Alors, toi, je vais te monter tes caractéristiques de ça et je vais te donner tel cadeau. Et c'est au niveau où chaque fidèle a ses bonus et ses malus. Et donc, tu vas vouloir garder plutôt celui-là, t'assurer qu'il ne meurt pas plutôt que tel autre pour que ça corresponde plus à ce que tu veux. Enfin, il faut s'y intéresser à ce niveau de détail, quoi. Donc, bon. Cet aspect, moi, m'a un petit peu rebuté, même si
ça t'a pas fait redécouvrir le jeu de gestion, quoi. Ça t'a pas fait aimer la partie gestion.
Non, je suis pas foncièrement contre les jeux de gestion. Je joue à quelques trucs de temps en temps, mais là, pour moi, c'était un petit peu. En fait, j'avais l'impression que ça m'empêchait d'aller faire ce que je voulais faire, ce qui était la partie roguelite. Et je comprends pourquoi ils l'ont fait comme ça. Évidemment, le roguelite. Il y en a des millions, il faut se démarquer. Et c'est vachement bien qu'il fasse un truc qui se démarque, qui fait qu'il va beaucoup plaire à certains, peut-être pas plaire moyennement à tout le monde, mais juste plaire à certains, et pas à d'autres, plutôt que de faire un truc plat qui
un peu tiède, ouais, c'est ça. Je suis assez curieuse aussi de voir, j'ai pas encore constaté en direct, mais je sais que ce qui fait grand bruit aussi, c'est l'extension Twitch qu'ils utilisent. Et qui permet de changer les spectateurs en adeptes et de, comment dire, d'influencer la partie d'un joueur. Ça, je serais très curieuse de voir ce que ça donne en stream, mais je sais que ça participe un peu aussi à la viralité du jeu, quoi.
Ouais, tout à fait, c'est assez malin, hein. C'est l'une des premières fois qu'on a une extension Twitch qui est bien utilisée, et évidemment, ça contribue à la popularité du truc, parce que c'est du contenu tout trouvé, déjà fait pour un streamer, quoi. Effectivement, les chatters qui deviennent des followers ou qui peuvent voter sur des décisions... en jeu, genre là on va lui donner tel bonus ou tel malus, c'est forcément, tout le monde va en faire au moins une partie, mais effectivement, comme on l'a dit, le jeu est bien au-delà de ça, il y a un jeu qui est bien derrière, c'est pas juste l'extension cool qui fait que. Donc voilà pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Ça faisait une bonne petite dose de jeu. Je crois que c'est tout, et du coup, il reste quelques news. Enfin, j'en ai une grosse tripotée.
Il y en a quand même pas mal, hein. Écoute, on a 26 minutes, on va les faire en express.
Voilà, exactement. On va voir combien de temps ça va nous prendre, mais c'est la partie du reste de l'actu. On se détend un petit peu, et donc on va faire les news en lightning round. Les infos que je lis un petit peu plus vite. Tu m'arrêtes s'il y a des choses qui t'intéressent.
Ça marche.
Il y a Saints Row qui arrive dans quelques jours, c'est le 23 août, donc peut-être qu'on en parlera au prochain épisode. Saints Row, le reboot, qui a présenté une dernière bande-annonce. Ils ont presque réussi à m'intriguer avec leur bande-annonce à répétition, mais je crois pas assez pour leur consacrer du temps, donc je pense pas que j'achèterai le jeu.
Non, je suis un peu comme toi. Je suis intriguée. Tu sais que j'ai jamais joué à Saints Row auparavant. Bon, forcément, enfin, je vois ce que c'est. Et là, je me dis que ce sera peut-être l'occasion, ma porte d'entrée, en tout cas, sur la licence, quoi.
C'est un petit peu la même chose. En fait, je vais attendre de voir ce qu'en disent les tests et ce qu'en disent les gens. Je crains le jeu, on parlait de jeu tiède, je crains le jeu un petit peu tiède, qui du coup soit un petit peu dispensable, surtout qu'il y a du lourd qui arrive à la rentrée. Donc, mais bon, on verra. Celui-là, il arrive, notez-le dans vos agendas, c'est le 23 août, donc la semaine prochaine. Il y a eu l'Evo qui a eu lieu ces dernières semaines. Et l'Evo, évidemment, tournoi de jeux de combat dont je parlais la dernière fois. Alors, il y a eu des annonces, pas autant d'annonces qu'on aimerait en voir. En gros, il n'y a pas eu énormément de choses sur Street Fighter VI et le prochain Tekken 8. On va revenir sur Tekken dans un instant. Mais sinon, c'était beaucoup de tel jeu va avoir une update avec le Rollback Netcode, qui est maintenant partout.
Oui, c'est
partout.
Ça. C'était vraiment le mot d'ordre, Rollback Netcode, j'ai l'impression, de l'Evo, quoi. Oui, il y avait des annonces de personnages, etc., mais quand même, moi, ce que je retiens, c'est le teasing autour de Tekken 8 que j'attends avec une vive impatience. Vraiment, je suis très contente qu'il y ait enfin un peu de grain à moudre là-dessus, quoi.
C'est un jeu qu'on espérait voir à l'Evo. Alors, ça sera peut-être à la Gamescom ou au Tokyo Game Show, peut-être le Tokyo Game Show. Mais alors, quand tu dis teasing, c'est presque généreux.
Oui, c'est très généreux parce qu'on parle d'une image. Hein. On parle vraiment d'une image du personnage de Kazuya Mishima. Mais ça me fait penser un peu, tu sais, à la promo qu'il y avait eu par Rockstar autour de Red Dead Redemption 2, qui peuvent se contenter de poster juste une image et de... Ouais. et de laisser les gens parler derrière. Mais c'est vrai que ça fait quand même 7 ans, ouais, si je me trompe pas, 7 ans que Tekken 7 est sorti. Et même s'il y a eu énormément de mises à jour, enfin, il y a toujours du contenu additionnel ajouté, on a quand même très envie de voir un nouvel épisode venir, parce que qui dit nouvel épisode de Tekken dit aussi ajustement en termes de gameplay. Enfin, c'est pas juste un roster qui s'étoffe. Il y a aussi potentiellement des nouvelles mécaniques qui vont s'ajouter. Et moi, j'ai très, très hâte de voir. Donc, j'en suis à ce stade où, parce que j'ai très faim, la moindre miette laissée par un développeur, me fait très plaisir. Et là, effectivement, c'est une miette. On peut parler de miette.
Oui, clairement. C'est marrant parce qu'il mettait la cinématique de fin de Tekken 1 quand Kazuya jette Heihachi du haut de la falaise. Et au moment où il se retourne et sourit à la caméra, ça se transforme en image moderne de Kazuya sous sans doute Unreal Engine 5. Et ça dit « Get ready ». Et donc, bon bref, vous comprenez bien qu'on est des fans de Tekken, donc on a parlé déjà bien trop longtemps de cette image. Mais oui, j'espère que ça sera la Gamescom qui arrive dans quelques jours. Mais peut-être que ça sera le Tokyo Game Show un peu plus tard. Get ready.
Mais quand même, dans l'Evo, il y a eu quand même une annonce du fait qu'il allait avoir un nouveau Fatal Fury.
Ça, c'est celle que j'ai retenue aussi. Ah là là, Julie, mais on est tellement bien ensemble.
On est en osmose.
Complètement, complètement. Un nouveau Fatal Fury qui. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, le dernier Fatal Fury, c'était Garou Mark of the Wolf, qui est l'un des meilleurs jeux de combat de l'histoire avec Rock Howard. Et donc, il va y avoir clairement, visiblement un nouveau. Là aussi, c'était un petit peu un teasing. Mais ouais, donc toi, t'es Fatal Fury ?
J'aime bien, mais c'est surtout que c'était tellement inattendu. Enfin, ça fait plus de 20, ça fait quoi? Ça fait 20 ans que Mark of the Wolves est sorti.
Ah ouais, moi j'y jouais quand j'étais au Japon dans les salles d'arcade, donc oui, ça fait 20 ans.
Ouais. Ouais, c'est ça, il est sorti en 99 sur arcade, je crois, ouais. Et je suis très très curieux. C'est plus l'aspect complètement inattendu, le fait de savoir qu'on va retrouver Rock Howard qui, moi, me réjouit.
Ouais. Je suis d'accord. Rock Howard, le fils de. Pas de Todd Howard. Le fils de Geese Howard, qui a été élevé par Terry Bogart. Donc, il mélange un petit peu les deux styles de combat. Les gens qui ne sont pas fans de jeux de combat nous ont lâchés en route. On a aussi eu deux personnages pour Street Fighter, Juri, qui revient, et Kimberly, qui arrive, qui est une nouvelle ninja. Et puis, il y a eu cette histoire avec Bridget, qui est un personnage de Guilty Gear Strive, qui revient dans Guilty Gear Strive. Et c'est marrant parce que, historiquement, c'était un personnage qui était un homme élevé comme une femme, et donc qui ressemblait vraiment à une femme, Bridget. Et il y a eu une petite excitation sur Twitter, parce que dans l'une de ces cinématiques, Bridget, qui était... En fait, on ne savait jamais si on disait il ou elle pour Bridget, et elle explique assez clairement qu'elle veut être elle-même. Et en gros, elle est une femme trans, et elle le dit dans le jeu. Et donc, il y a toute la communauté des jeux vidéo qui a réagi plutôt positivement à la chose. Mais moi, ce qui m'a marqué là-dedans, c'est surtout, comme je le disais avec Bayonetta 3 et le mode « on peut jouer sans avoir avec ses enfants à côté parce que tout le monde n'est pas à poil », de voir encore des développeurs japonais qui s'intéresse à ces questions-là. Et c'est Bridget qui dit « Ah oui, en fait, je suis une femme. » Et c'est pas un truc que j'aurais pensé voir un jour les développeurs japonais qu'ils se préoccupent de ce genre de choses, quoi. Accessoirement, elle joue avec des yo-yo. Donc voilà, c'est un personnage qui joue avec des yo-yo et qui tape avec ses yo-yo. Moi, j'aime bien.
Moi aussi.
Quoi d'autre? C'est à peu près tout pour l'Evo, je crois. Donc,
oui, je crois qu'on a fait les gros trucs.
Il y a eu un Nintendo Direct sur Splatoon 3, dont je ne retiens pas énormément de choses. Il arrive aussi en septembre, Splatoon 3, si je ne dis pas de bêtises.
Je crois que c'est ça, ouais.
Il y a un nouveau mode qui a été présenté où ce n'est pas du 4 contre 4, mais 2 contre 4 contre 2, qui est plutôt intéressant.
Ouais. Pas grand-chose à signaler, à part le fait qu'on va retrouver des armes déjà connues de la franchise, qu'il y aura quelques ajouts, des nouvelles armes. Enfin, moi, j'attends de voir. Je suis quand même assez curieuse de ce Splatoon 3.
Ouais, c'est un jeu vraiment particulier. C'est le genre de jeu auquel je jouerai avec mon fils quand il sera suffisamment grand pour jouer à des TPS dans quelques années. Évidemment, je vais pas le mettre sur des trucs militaires. Limite, bon, il voudra jouer à Fortnite, mais première étape, ça sera le jeu où on se tire dessus avec de la peinture. C'est un petit peu plus cool, donc il y aura le 3 pour ça. Donc ça, c'était le Nintendo Direct. Il y a eu le THQ Nordic Showcase. c'est un peu... mais tout le monde a son showcase maintenant. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que...
Ouais, c'est ça.
C'est bien,
tant mieux. Compliqué la tâche.
T'en as retenu quelque chose du THQ Nordic Showcase? Moi, j'ai pas... Il y avait pas...
Ah oui.
Enfin, si, Alone in the Dark, mais...
Bah voilà, c'est... Tu lis en moi comme dans un livre ouvert, parce que c'est vraiment le truc que j'ai retenu du THQ Nordic Showcase. C'est bah, pareil, hein, une annonce que j'attendais pas du tout, même si je crois que ça avait peut-être leaké un peu avant, mais je m'y attendais pas du tout. J'aime vraiment beaucoup le premier Alone in the Dark. C'est un jeu qui est vraiment essentiel en fait dans le genre du survival horror, puisque c'est un jeu pionnier. Mais là où je suis... Disons que je sais pas si c'est réellement nécessaire hein, de faire un remake. Bon, c'est une question qui est toujours légitime à se poser, mais je suis assez contente de savoir qu'il y aura donc un des auteurs de Soma, que j'avais vraiment adoré, qui en termes de narration était, je trouve, assez superbe. Donc, il s'appelle Michael Hedberg. Ce sera pas, enfin, je parle de remake, mais c'est pas vraiment un remake du premier, par exemple, à proprement parler. On va retrouver le manoir d'Erceto, mais il y aura un mélange, en fait, des trois premiers jeux de la franchise, si je ne me trompe pas. Et j'ai l'impression que THQ Nordic sont entourés de gens plutôt compétents. Bah, il y a le Michael Hedberg que je citais, mais il y a aussi un artiste qui s'appelle Guy Davis, qui a notamment travaillé avec Guillermo del Toro et qui, je pense, que de très belles choses peuvent accoucher de son cerveau malade. Vraiment, je suis très, très curieuse de voir ce que ça peut donner. Et bon, ça, forcément, c'est ce que j'en ai retenu. On sent quand même qu'il y a encore une fois, c'est un teasing assez court avec quelques images, mais on sent qu'il y a un réel amour du jeu des années 90. Et j'ai très très hâte de voir ce que ça peut donner, tout comme j'ai une énorme appréhension de voir une franchise que j'aime vraiment sincèrement se faire malmener. Mais bon,
disons que je veux pas être le rabat-joie de service, mais surtout après avoir passé 10 minutes à parler de jeux de combat dont seul 10% de l'audience seul 10% de l'audience s'intéresse, mais j'ai l'impression que... Comment dire, j'espère qu'il sera bien, mais c'est tellement vieux, Alone in the Dark. Est-ce qu'on peut vraiment est-ce qu'il y avait une histoire incroyable? Est-ce qu'il y avait un truc je sais pas. S'ils avaient annoncé un autre survival horror avec un autre titre, est-ce que ça aurait pas été la même chose? Et du coup, les gens qui sont super excités pour le truc, c'est des gens qui ont dans l'amour de Alone in the Dark qui leur je sais pas, qui font qu'ils sont plus excités pour le truc que si... Ce qui est très bien, hein, il n'y a pas de raison de bouder son plaisir, mais...
Je suis d'accord avec toi dans le sens où le problème de ces projets-là, c'est que ça repose énormément sur la nostalgie. Bon, on a vu par exemple avec le cas de Capcom et ses remakes à tir larigot que c'était possible en fait de faire un jeu qui repose pas exclusivement sur la nostalgie, qui peut permettre vraiment de donner un nouveau souffle à un ancien jeu, de faire découvrir des œuvres cultes à toute une nouvelle frange de joueurs. Pour le cas de Alone in the Dark, c'est très particulier parce que ce qui faisait vraiment, je trouve, sa distinction, c'était le fait de créer la peur avec pas grand-chose, un sentiment... Enfin, c'était un moment où le survival horror n'existait pas réellement. Et là, maintenant qu'on en a mangé énormément, que c'est un genre très connu...
Il faut préciser qu'il date de 92. Donc 92, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, il y avait 4 pixels dans l'image. Hein. C'était vraiment... C'est un jeu en 3D. Un personnage était composé de quoi? 20 pixels 30, pardon, pas pixels, mais polygones. Un truc comme ça, donc c'était vraiment particulier.
Toute la peur aussi était dans la suggestion, dans le fait qu'on se sente en danger. Enfin, ça, c'est vraiment un parti pris de Frédéric Reynal sur le premier jeu. C'était l'idée que à chaque fois que le joueur ouvre une porte, il craigne ce qui va se passer derrière. Et là, je pense qu'on a un petit peu perdu. On est tous un peu désensibilisés à ce type de peur. Donc, de ce que je vois du trailer, ça a pas non plus l'air de reposer sur la suggestion. Enfin, ça a l'air d'être très, ça repose sur l'ambiance, le côté, les États-Unis pendant les années 20, le côté, je sais pas. J'ai autant d'excitation que d'appréhension sur ce type de projet. Ouais.
Disons que là où je rejoins le reste des gens, c'est que Alone in the Dark est peut-être une franchise qui est pas assez connue. Sur un truc comme Resident Evil, ça date pas d'il y a si longtemps, donc les gens s'en souviennent et puis c'est peut-être plus facile à adapter. Là, c'est quasiment comme refaire un nouveau jeu. Mais oui, la franchise est pas assez connue alors qu'elle est fondatrice, donc rien que pour ça vaut peut-être le coup. J'espère que le jeu sera bien. Donc Alone in the Dark, entre parenthèses, c'est THQ Nordic dont on parle, donc M-Racer, hein, ils sont partout. Après, il y a quelques autres trucs. Il y a Recreation, qui est une sorte de Trackmania mélangé à Burnout. qui est un petit peu complètement fou, qui a l'air intéressant. C'est un jeu de bagnole où on est sur des circuits improbables. Outcast 2, Gothic 1 remake. Je ne savais pas si Gothic avait besoin d'un remake, mais bon, ok.
Non, oui, pareil. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un remake, il faut se poser la question, on a-t-on réellement besoin ? La réponse est souvent non, mais...
Oui, je sais pas. Bon, parfois oui, parfois non. Mais Gothic 1, vraiment, enfin, il y a les fans de Gothic qui vont venir m'insulter, mais de tous les remakes qu'on a vus de notre vie de gamer, est-ce que Gothic, tu vois, enfin, c'est plus une interrogation, c'est pourquoi est-ce que Gothic est-ce qu'il avait un tel succès, les gens s'en souviennent tellement, peut-être que c'est le cas et que je n'ai pas assez de respect pour cette franchise et ce jeu, hein, c'est possible, mais...
Je suis un peu comme toi. Je me pose la question aussi. Tu vois, quand on a des annonces, par exemple, de remakes comme Dead Space, Max Payne, enfin, dans tous les remakes qui sont à venir, je comprends à fait la logique, qu'elle soit commerciale, enfin, qui est souvent commerciale d'ailleurs. Mais souvent, je comprends la logique. Et là, j'ai du mal à la voir, mais bon, on verra bien. Encore.
L'occasion d'être agréablement surpris. Voilà. Quelques retards. Alors, on parlait de Stormtober ou de Octoberpocalypse, avec des dizaines de jeux incroyables qui allaient sortir en octobre. J'ai l'impression qu'ils sont tous peu à peu en train d'être décalés. Et j'ai l'impression, alors c'est sans doute pas le cas, j'ai pas bien vu, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous en train d'être décalés à février 2023 et qu'ils nous refont le février... Attendez-le. C'est ça, qu'on nous le réserve pour 2023 aussi. Alors, il y a Hogwarts Legacy qui a été décalé, Midnight Sun, le jeu Marvel qui a été décalé, bon, Metal Slug...
Oui, alors ça, j'étais honnêtement étonnée parce que j'avais eu l'occasion d'y jouer 4 heures il y a un mois ou deux et il me paraissait vraiment assez bien fini. Mais bon, ouais, je suis étonné, mais on verra.
Ouais, bah écoute, c'est bien qu'ils le finissent autant qu'ils peuvent, hein, on va dire. Donc,
je pense qu'ils ont énormément, enfin, Firaxis a énormément à jouer sur, enfin, Firaxis, je sais, je le prononce toujours très mal, mais je sais qu'ils ont énormément d'espoir là-dessus parce que l'idée, forcément, enfin, moi au début, je pensais que ça allait être un XCOM avec des super-héros Marvel, mais non, c'est clairement. On a beaucoup plus de Marvel que de XCOM. C'est vraiment un jeu ultra accessible qui va leur permettre de drainer un nouveau public potentiellement massif parce que c'est Marvel, forcément.
Évidemment.
Les enjeux commerciaux sont énormes.
Et puisqu'on parle de février, j'ai aussi une news qui vient de tomber juste avant l'enregistrement de l'émission. C'est Dead Island 2 qui sortirait le 3... C'est quoi ? C'est le 3 février 2023. Alors ça, c'est pas un jeu décalé. Encore que, vu qu'il a été annoncé il y a 10 ans, on peut presque estimer qu'il a été décalé par défaut. Il sortirait le 3 février, Dead Island 2. Bon... Curieux aussi de voir ce que ça donnera. Dead Island, je m'en souviens encore, à l'époque, il y a quoi, 15 ans, quand il est sorti. Mais je ne sais pas si j'attends Dead Island 2 avec une excitation folle. Mais
bon. Une folle anticipation, ouais. Une folle anticipation. Je comprends.
Les anglicismes. Donc voilà pour février. Quelques petites news jeux. Allez, vraiment là en pagaille. Vous avez vu passer ça sur Twitter avec Sangoku et Vegeta qui font des danses diverses. Il y a la collaboration Dragon Ball et Fortnite qui a été lancée. Vraiment, c'est. Enfin, j'ai vu une vidéo complètement improbable où il y a Sangoku qui se balade dans le monde de Fortnite, qui tue des gens avec des Kamehameha, puis qui sort son sabre laser et qui dévie des tirs d'autres ennemis pour les tuer et avoir un victory royale. Fortnite est vraiment un truc, mais tellement improbable. Si on m'avait dit qu'il y aurait un truc comme ça, où Kratos peut se battre contre Sangoku qui se bat contre Master Chief... Enfin bon. Avec des sabres laser, bon bah écoutez, voilà, c'est Fortnite quoi, c'est fou.
Bah, de toute façon, ouais, on attend de voir, franchement, ouais, non, comme tu dis, il y a un côté crossover tellement improbable dans Fortnite que moi j'ai complètement arrêté de suivre, donc plus rien ne m'étonne, vraiment. Je pourrais voir débarquer Pyramid Head dans Fortnite que je serais même plus étonné.
C'est non mais complètement, il y a rien qui est hors limite, rien. Je sais pas quelles sont les plus grandes licences. Enfin, il y a Marvel, il y a Star Wars. Donc déjà les plus grandes licences du monde y sont. Maintenant on a des licences japonaises. Il va y avoir, enfin je sais pas, Chainsaw Man, tu vois les trucs à la mode en ce moment qui vont débarquer. Il y a Naruto, mais il y a tout quoi. Donc
il y a vraiment tout.
Et d'ailleurs, ça me donne presque envie d'aller relancer Fortnite rien que pour voir un petit peu Sangoku, mais il faudrait acheter la skin, ça fait. Pour quelqu'un qui joue jamais, bon. Et dans ce monde où il est compliqué de vendre des choses, Activision a une idée géniale pour vous pousser à acheter Call of Duty, pour payer Call of Duty en précommande. C'est de vous offrir une semaine à l'avance le mode solo. Ils vont, si vous précommandez Call of Duty, et ben vous pourrez faire la campagne de Call of Duty Modern Warfare 2 une semaine à l'avance. C'est marrant comme ces trucs-là sont utilisés comme, c'est même pas argument commercial quoi maintenant. Je l'avais particulièrement noté avec le Game Pass quand les jeux inclus dans le Game Pass étaient accessibles quelques jours avant. C'était le cas de Forza Horizon 4, je crois, ou 5. Une semaine à l'avance ou trois jours avant, quand on payait la version plus. Donc les vrais fans, ils le prennent pas que dans le Game Pass, ils le payent pour l'avoir trois jours avant. Bon là, c'est pour la partie solo de Modern Warfare.
C'est ça qui est assez étonnant parce que au final, combien de joueurs de Call of Duty en font l'acquisition pour le mode solo finalement ?
Visiblement, c'est un tiers des gens qui finissent la campagne solo d'après les infos qu'on a pu glaner les plus récentes. Mais oui, du coup, ça va peut-être pousser les gens à... Enfin, les gens qui l'ont précommandé qui vont le précommander n'auront que la campagne solo à se mettre sous la dent quand il arrive en précommande. Moi, je pense que... Enfin, moi, par exemple, je joue un petit peu au multi, mais pas beaucoup. Je me demande si je ne vais pas l'acheter pour faire la campagne solo, pour pouvoir en parler, parce que c'est un Modern Warfare 2, c'est un gros morceau. Enfin, bon, je ne sais pas. Mais du coup... Est-ce que c'est pas le jeu qui est lancé une semaine avant et le multi qui arrive une semaine en retard ? Je sais pas. En tout cas, il sort le 28 octobre. On avance un peu plus vite. Moonscars, qui est un jeu qui a l'air vraiment intéressant, un jeu en pixel art très sombre, qui a l'air d'être une sorte de Soulsvania, ou en tout cas Metroidvania. Il arrive le 27 septembre et il sera dans le Game Pass. Mais il a c'est noir et rouge en gros, et il a l'air péchu au niveau des attaques, incroyable. Moi je l'attends beaucoup, et il sera dans le Game Pass. Donc ça c'est une bonne nouvelle, 27 septembre. Forspoken, les dialogues Joss Whedonesque, ont été beaucoup critiqués par l'internet.
Internet, c'est ça, ouais.
Moi, je trouve ça un petit peu... Comment dire ? Parce qu'en fait, l'héroïne de Forspoken, elle dit genre « Ah, quoi, moi ? Mais ouais, moi, je suis un dieu ! Ouais, je peux faire ci et ça ! Et en plus, je pourrais bientôt voler ! » Quoi ?
Je vois des dragons. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un côté un peu, disons un peu, je veux pas dire ridicule, c'est un peu méchant, mais en tout cas facile à tourner en dérision.
Ouais,
et c'est ce
ça.
Que les internautes se sont donné à cœur joie, on va dire.
Et puis il y a beaucoup de gens qui ont fait des trucs genre, ah regarde, moi je suis Kratos, et qui ont mis le même ton comique sur d'autres jeux pour dire genre, ah mais regardez, c'est tellement ridicule ce jeu-là. Mais c'est le ton de Forspoken. Ça se trouve, ça marchera très bien dans ce jeu-là. Bon, ça se trouve, ça sera cringe et ça marchera pas. Je sais pas, mais laissons-lui sa chance.
Mais bon, disons que ça fait une forme de communication indirecte, hein, parce que beaucoup de gens en parlent juste pour tourner en dérision, ouais, ce côté un peu ringard, on va dire, de la narration, mais qui fait partie de Forspoken, comme tu l'as dit.
Ouais, et puis surtout, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir un jeu dont le héros ou l'héroïne se prend pas hyper au sérieux et puis est émerveillé par ce qu'elle peut faire. On n'a jamais vraiment eu ce genre de truc. On n'a pas besoin encore d'un Kratos ou d'un Master Chief qui fait « Ah, moi, j'arrive, et c'est la guerre, machin. » Bon, une nana qui est débarquée de New York et qui arrive dans un monde d'Heroic Fantasy. Bon, ensuite, il faut que ça soit bien écrit, hein, on est d'accord. Mais... Bref.
C'est ça, c'est là que tout va se jouer.
News industrie. Allez, je vais vous passer Bud Spencer et Terence Hill qui vont avoir un deuxième jeu Slaps and Beans en 2023, qui est celui que tout le monde attend vraiment pour l'année prochaine. Et je vais vous parler de Disney et Marvel qui vont présenter leur jeu. Ils auront un vrai Game Showcase pendant le D23, qui est une présentation plus large de leur production, le 9 septembre. Donc on risque de pouvoir voir un petit peu plus de Spider-Man 2 ou Wolverine le 9 septembre, potentiellement. Un nouveau jeu, Lord of the Rings, on en parlait tout à l'heure, qui est développé par Take-Two et Weta Digital. Google est en train de tester la possibilité de lancer Stadia ou Luna ou le xCloud de Microsoft ou le GeForce Now depuis les résultats de recherche. Et ça, c'est le truc dont, qui aurait dû être implémenté au moment du lancement de Stadia. Mais le fait de chercher, en fait, je ne sais pas si tu fais partie des gens, Julie, qui, au lieu de taper, je ne sais pas, par exemple, Facebook, si tu utilises Facebook, au lieu de taper Facebook, Ctrl, Enter, pour avoir Facebook.com, tu tapes Facebook, Enter, et tu cliques sur le premier résultat de recherche. Il y a beaucoup de gens qui font ça.
Ah, excuse-moi, je t'ai perdu pendant deux secondes.
Ah, pardon. Non, je disais...
mais je suis de retour.
Les gens qui font, qui tapent sur la barre de recherche, Facebook, Enter, et puis tu cliques sur le premier résultat plutôt que de taper Facebook.com. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là?
Ah oui.
Bien sûr.
Oui.
Et donc, Google, qui te permet de lancer un jeu à partir d'un résultat de recherche, ça a aussi un intérêt s'il prend en compte tes comptes Stadia, xCloud, GeForce Now, ça pourra aussi t'indiquer si tu as un jeu qui est dispo sur l'un de tes abonnements et pouvoir le lancer directement depuis Google. Bref, moi, je trouve ça bien.
Ouais, c'est plutôt cool. On parle d'une économie de temps qui se compte en secondes, non ?
Et seconde plus seconde, ça fait des minutes.
C'est vrai, non oui c'est vrai, c'est très sage ce que tu dis.
Abonnement famille pour le Game Pass, qui coûte pas tellement plus cher. Attends, je vais retrouver le prix qui est en test en ce moment. Abonnement famille pour, genre, je sais plus combien de membres de la famille, qui coûte 22 euros.
C'est 4
qui est
membres,
en test.
Je crois.
4, c'est ça, 4 membres de ta famille.
4 là où en plus de toi, ouais.
Ouais, là où c'est intéressant, c'est que donc ça coûte 22 euros, c'est en test en Irlande en ce moment, mais là où c'est intéressant, c'est qu'il est précisé dans les conditions d'utilisation que tu peux ajouter n'importe qui, même si c'est pas vraiment dans le même foyer. Et du coup, tu peux vraiment ajouter genre tes potes, et tu peux mettre 4 personnes ou 5 personnes sur un abonnement à 22 euros. J'imagine qu'ils ont fait leur calcul. Bon, c'est en test, hein, ça se trouve, quand ça arrivera, ça sera 39 euros. Mais c'est quand même surprenant comme tarif pour un abonnement de ce type-là. Ça pourrait leur permettre de gagner beaucoup, beaucoup de parts de marché. T'imagines ?
Et là, Sony se plaindra derrière pour dire oui, c'est de la concurrence déloyale à nouveau. Mais oui, là, ce serait vraiment ultra intéressant.
Je ne sais pas si on peut calculer le coût du Game Pass. Mais déjà qu'à 10 euros, on a du mal à voir comment ils gagnent de l'argent. À 22 euros pour 5 personnes, c'est de la vente à perte, enfin, j'imagine, je ne sais pas.
Mais bon. Ouais. Oui, non, mais c'est pour ça que, comme toi, je suis assez curieuse de voir si le prix restera le même, parce que ça ne me paraît pas grand-chose par rapport au prix du Game Pass habituel.
Ouais, possible qu'au-delà du test, il change le prix. Tencent pourrait racheter Ubisoft. Les rumeurs continuent d'enfler autour de ce rachat. Et puis, quoi d'autre ? Bon, on a parlé de PlayOn. Et puis, je voulais, en conclusion, parler de deux petites choses, juste les évoquer rapidement. D'une part, il y a un article super intéressant sur les casinos de crypto-monnaies qui sont mis en avant par les streamers sur Twitch, les gros streamers en particulier. Sur Twitch, il y avait un article, alors que je ne vous dise pas de bêtises, c'était sur Bloomberg, qui sera dans la newsletter. Alors, la newsletter, c'est plutôt tech, donc je ne sais pas si ça vous intéresse forcément, mais allez chercher l'article de Cecilia D'Anastasio sur...
C'est un travail formidable, hein, vraiment.
Ouais, tu l'as...
Je trouve qu'on parle, on parle quand même très souvent de Jason Schreier, mais je trouve que, enfin, moi, pour moi, c'est une des journalistes de référence. Ah mais oui, c'est absolument passionnant comme article, parce que ça montre vraiment comment des streamers Twitch, finalement, incitent des spectateurs à se mettre eux aussi à parier. Parier au point de s'endetter. C'est absolument, bon, avec des témoignages à la clé, c'est vraiment une très bonne lecture, vraiment édifiante.
Complètement, ouais. Et du coup, Twitch a dit qu'ils allaient investiguer la chose. À mon avis, c'est le genre d'article qui met le feu sous les fesses des gens qui investiguent la chose.
Ah bah complètement, ouais.
Je pense que d'ici une semaine ou deux, on aura une petite annonce de Twitch. Vous n'avez plus le droit de faire de partenariat ou de jouer sur des casinos.
Oui, c'est ça, parce que justement, oui, tout le problème pointé par cet article, un des problèmes pointés par cet article, c'est que beaucoup de streamers utilisent des codes promotionnels qui mettent à disposition des spectateurs, ce qui les entraîne là-dedans. Et ensuite, ouais. A des conséquences assez drastiques sur leur vie financière.
Et puis, il y a une histoire qui revient encore sur le devant de la scène suite à un article de Kotaku, qui est la question des gens qui travaillent pour Nintendo, mais pas directement au sein de la société Nintendo, on parle des États-Unis, mais qui travaillent pour des contracteurs tiers qui font beaucoup de QA, de Quality Assurance, donc qui testent les jeux en gros, et des problèmes de harcèlement sexuel et de sexisme, d'une manière générale, dont elles sont victimes. Et il y a un article de Cici Jiang, ou Yang, sur Kotaku, qui a été publié il y a 2 jours, je crois, qui est assez édifiant sur ce sujet aussi. Je vous encourage à aller le regarder, le lire, si c'est une question qui vous intéresse. Et là où c'est vicieux, c'est l'ascendant qu'ont les employés, les Red Badge, c'est-à-dire les employés de Nintendo vraiment, sur les contracteurs, qui sont des gens qui ont très peu de pouvoir et très peu de considération, et qui pourtant travaillent énormément sur les jeux de Nintendo spécifiquement. Donc, ils avaient déjà eu des problèmes à ce niveau et ils avaient assuré qu'ils travaillaient à la correction de ces problèmes. Les faits relatés datent d'il y a un moment. Donc, avant les problèmes, avant que les problèmes aient été déjà dévoilés dans d'autres articles. Donc, on peut espérer que Doug Bowser, qui est en charge de la boîte maintenant, adresse les problèmes. Mais personne n'a répondu à Cici pour son article. C'était toujours « non, on ne répond pas, oui. On ne dit rien, on ne parle pas ».
La fameuse stratégie, oui, ouais, on ne répond pas. Ouais.
Donc voilà pour Nintendo. Et puis, la dernière chose, peut-être que j'en parlerai un petit peu plus longtemps dans l'after show, mais il y a une autre histoire, alors qui va un petit peu, pas vraiment dans l'autre sens, mais l'histoire d'un créateur de contenu sur Overwatch qui s'appelle SVB, qui est un petit créateur, il a genre 40, 45 000 abonnés sur YouTube, mais il avait été victime d'un hoax où un jeune adolescent anglais, lui il est anglais, a publié sur Twitter un faux témoignage l'accusant de harcèlement sexuel et d'avoir utilisé des cours particuliers sur Overwatch pour lui demander des images, des nudes et des trucs comme ça, alors qu'il savait qu'elle, cette personne fictive, était mineure. Et c'était une personne qui a posté ça sur Twitter. Et 2 heures plus tard, la personne qui avait fait ça, c'était un faux, a avoué que c'était un faux, et il voulait montrer à quel point il était facile de ruiner la réputation de quelqu'un. Et vraiment, ce genre de truc, je m'en méfie, parce que c'est, j'imagine, utilisé pour critiquer les gens qui condamnent ce genre de comportement, en fait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je pense que vous comprenez. Mais dans ces 2 heures, c'est... Il a un petit peu réussi son coup, le type qui a fait ça, parce que c'était l'enfer. Le type s'est vu, condamné par la presse, par les gens qui le suivaient, d'autres créateurs de contenu. Et lui, on le voit en stream qui découvre ça. Et en plus, lui, il parlait des questions de sexisme depuis longtemps. Il milite pour la reconnaissance de ses problèmes dans l'industrie, etc. Enfin, il milite, il en parle beaucoup. Mais c'était édifiant de voir à quel point une personne, et ce qu'il dit, lui, SVB, c'est les journalistes ne vont même pas essayer de vérifier la véracité des faits.
Alors,
et ils m'ont condamné.
Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. C'est quand même déplorable, effectivement, de la part des journalistes de ne pas vérifier derrière avant de s'en insurger, parce que ça fait partie de leur travail. Mais le problème avec ce type d'initiative, c'est qu'effectivement, ça a tendance à décrédibiliser les témoignages de victimes, ouais. De réelles victimes, qui déjà, c'est déjà suffisamment difficile de prendre la parole sur ce type de sujet et d'être pris au sérieux. J'ai du mal, moi, à voir, comment dire, le bien fondé de ce type d'expérience sociale. Mais
je pense que... Mais moi, j'ai aucun doute sur le fait que la personne qui a l'initiative du truc... j'ai aucun doute, j'en sais rien. Mais je pense que l'initiative du truc, c'est un type qui, justement, veut décrédibiliser les personnes qui témoignent. Tu vois,
ouais, c'est
complètement sur cette... Et même lui, SVB, il est hyper mal parce qu'il dit, il répète au début, au milieu et à la fin de sa vidéo, il faut croire les femmes qui ont le courage d'aller témoigner parce que, justement, c'est tellement dur pour elles et elles se font en plus insulter et harceler encore plus quand elles ont le courage de le dire. Et en même temps, lui, il a eu sa vie qui a été... tu vois, si le type n'avait pas avoué la chose, il y aurait eu des conséquences indélébiles sur sa vie et sa carrière, quoi. C'est la raison pour laquelle ça m'a un petit peu touché, peut-être que j'en parlerai dans l'after show, c'est que je ne sais pas si toi, c'est ton cas, tu n'es pas forcément concerné, mais moi, en tant que mec, et peut-être d'une certaine génération, c'est un truc que j'ai à l'esprit aussi quand je vois, et pourtant Dieu sait que je milite aussi pour la reconnaissance de ces problèmes et qu'on en parle tout le temps, et du sexisme dans l'industrie et du harcèlement, mais je me dis, putain, s'il y a un truc comme ça qui m'arrive, qu'est-ce que je fais ? Personne va me croire, personne. Tu vois, c'est ça qui m'a touché avec SVB. Et le pauvre gars, en plus, il est. Enfin bon, bref, c'est un truc qui était particulièrement marquant. Et c'est. Je crois que le truc comment dire, que je retiens au final de ce genre d'histoire, c'est qu'en réalité, ce genre de choses n'arrive pas ou très rarement. Je veux dire, les accusations de ce type qui se révèlent en fait être des hoaxes.
Ah oui, ça franchement, c'était vraiment très très marginal.
C'est ça.
Non, et puis après, bah, c'est vrai que tu parles du. Je comprends, hein, c'est une préoccupation essentiellement masculine, mais oui, forcément, le côté témoignage qui ruine des carrières n'est pas toujours une chose qui se vérifie. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui continuent à trouver du travail malgré les accusations qui portent sur elles. Mais pour moi, par contre, j'insiste aussi sur l'importance, effectivement, de vérifier les faits, mais tout en prenant au sérieux les témoignages des victimes.
Oui, c'est sûr. Bah, disons que la situation par défaut. Au début on croit, mais là tu vois, c'est ce qui est préoccupant,
il y a tellement rien à gagner en fait pour les femmes qui prennent la parole, parce que tout ce qu'elles vont se prendre derrière souvent c'est des vagues de harcèlement en pleine poire,
ouais.
Que du coup oui, moi j'ai tendance à, ou je crois les victimes, ouais.
Et puis surtout dans ce genre de situation, imaginons même que le type qui fait le hoax il ait été hyper motivé, il ait fait 3-4 comptes différents, ou tu vois qu'il ait fait le témoignage de plusieurs personnes, on finit par investiguer la chose et puis tu te rends compte que ça tient pas, t'arrives pas à rentrer en contact avec la personne, ou c'est, enfin il y a la question de journalisme, mais peut-être que l'autre aspect effectivement à retenir, c'est les journalistes qui eux se sont désolidarisés, qui ont retweeté en disant ah oh, c'est scandaleux, c'est incroyable machin.
Ah oui.
Ouais. Ok. Faisons le. Surtout
ça,
quand il y a.
Ça pour moi c'est un gros problème. Ouais. Ouais. Mm.
Bref, j'ai pas de réponse à ça, mais ça m'a marqué quoi, parce que le type c'est un petit créateur que je suis moi depuis 4 ans, dont personne n'a jamais entendu parler, enfin SVB machin, et moi ça m'a marqué parce que j'ai senti sa détresse dans sa vidéo. En plus le mec c'est vraiment c'est un good guy quoi, tu vois, c'est le genre de type qui se bat pour. Bref, bon, voilà pour les 3 sujets controversés que je gardais à la fin de l'émission, mais je crois que le truc à retenir sur ce sujet, c'est oui, malgré tout, malgré les aspects positifs et négatifs, l'important dans ces situations, c'est de croire les victimes avant tout, et puis peut-être avec un circonspection, mais de croire les victimes avant tout, c'est dur. Quoi.
Oui, ça je suis entièrement d'accord, mais comme tu dis, hein, par exemple, avant de s'insurger sur Twitter, effectivement, vérifier les faits derrière, notamment quand on est journaliste.
Ouais. Et c'est ça qu'il dit. Lui, il dit vérifier. Avant de vous insurger, avant de retweeter immédiatement en 2 secondes, juste attendez. Vous n'aviez pas besoin de ne jamais me condamner, mais attendez, ne le faites pas dans la demi-heure, quoi. Attendez pour vous faire un avis là-dessus, attendez que les infos soient investiguées un tout petit peu. Bref, bon. Merci Julie d'avoir été là pour
cet
épisode estival de fin d'été. C'était un moment délicieux partagé en ta compagnie.
Je suis navrée pour mes problèmes de connexion.
Il n'y a pas de souci, écoute, ça s'est bien passé à la fin. Et du coup, bah, on te retrouve dans quelques semaines dans l'émission. Mais entre-temps, si les auditeurs veulent plus d'Hélène Ripley, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ?
Ah, alors vous pouvez me retrouver sur Twitter.
Oula, là ça coupe. Ça coupe au bout du coup.
Oh.
Ouais. On ne t'entend plus. Allô ? Allô ? On peut te retrouver sur Twitter, tu disais.
Exactement. Avec...
Eh ben non, on n'entend pas. ICTH, c'est le nom du compte Twitter. ICTH, donc vous pouvez retrouver Julie sur Twitter, ICTH, également sur un autre podcast que vous aimerez sans doute, Silence on joue, dans lequel elle est régulièrement avec Erwan Cario. J'imagine que l'émission revient en septembre, hein, après la trêve estivale. Je pense que c'est les 2 choses dont tu voulais parler. Je ne sais pas si t'as complètement disparu ou si t'es revenu. Et sur Twitch, me dit-on, dans la chatroom, donc j'ai l'impression qu'elle est partie. Donc sur Twitch aussi, j'imagine que c'est ICTH sur Twitch également. Un grand merci à Julie. Bah écoutez, on va finir sans elle. Peut-être qu'elle reviendra nous dire au revoir à la fin.
Je suis de retour.
Ah, tu es de retour.
Juste pour vous faire un gros bisou et d'accord. Vous dire au revoir, ouais. Et vous promettre que la prochaine émission ne devrait pas y avoir de soucis car je serai en filet. Voilà.
Super. Je disais donc Twitter, Silence on joue et Twitch. C'est ça pour
toi. Et Twitch, ouais. Hélène Ripley, ouais.
Hélène Ripley, ah, c'est pas ICTH sur Twitch. Ok, Hélène Ripley sur Twitch.
Ah oui, sur Twitch, ouais, c'est mon pseudo. Mon pseudo de l'époque Canard PC, ouais, que j'ai gardé, parce que franchement, je peux pas me déposséder d'un pseudo pareil.
Mais oui, c'est comme ça que la plupart des gens te connaissent. En plus, c'est le nom que tu utilises un peu partout. Donc, super, merci beaucoup à toi. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, partout. NotePatrick.com sur le web. NotePatrick.com pour retrouver les liens vers tout ce que je fais, y compris la newsletter tech, c'est une newsletter de veille tech qui vous intéressera peut-être. Et évidemment, le Patreon, c'est patreon.com/rdvjeu pour soutenir l'émission si vous le souhaitez. Ça serait extrêmement apprécié. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes.
Ciao.